Kid. Il manie l'idée, il manie l'idée. La persuasion, le silence. Informé, informé, cultivé, cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
Bienvenue à Cube, bonne fin d'après-midi, merci d'être là. Dernier rendez-vous de la semaine, on est vendredi, journée quand même finale là, de ce voyage que je qualifierais de fort réussi du premier ministre français, Gabriel Attal, qui est passé par Ottawa. Ça a été plus tranquille à Ottawa, c'était poli, tout a bien été. Plus émotif, plus peut-être dans des sujets qui engageait le cœur et la passion au Québec, entre autres sur la laïcité, où il a exprimé des positions qui sont connues de lui là-bas. Là, il a été ministre de l'Éducation pendant 6 mois, avait interdit un des signes religieux, donc avait renforcé des lois déjà existantes là, sur la laïcité en France, qui vont plus loin que les nôtres, qui touchent pas seulement les enseignants, mais aussi les élèves là-bas. Bon, je vous dirais que c'est un voyage réussi, ou d'une certaine façon, également pour François Legault. Le fait de l'accueillir pour M. Legault, ça l'a renforcé dans ses positions. Double effet. Sur la laïcité, ça y fait un appui. Un chef de gouvernement étranger qui arrive et qui appuie sa politique. Mais de surcroît, ben pendant ce temps-là, ça fait une semaine où on parle pas de tout ce qui marche pas dans les écoles, les hôpitaux, de tous les problèmes qui viennent avec le fait d'être au gouvernement. Là. Quand t'es au gouvernement, c'est toi qu'on blâme pour tout ce qui accroche. Donc, ça fait une semaine un peu de dégagement. Et donc, ça a été, je pense, pour François Legault, ça va lui donner quelques... Comment dire, ça va lui donner un peu d'oxygène, là. Ça va lui donner un peu de marge de manœuvre pour quelques semaines. Alors, OK, que lundi matin, il va retomber dans les affaires ordinaires, mais quand même, puis je suis convaincu que lui, j'ai l'impression qu'on va avoir un François Legault plus de bonne humeur, là, peut-être, pour quelques semaines. Je pense qu'il va avoir bien apprécié les propos de Gabriel Attal. Alors, remarquez que Gabriel Attal, il a été éloquent sur le dossier de la laïcité, mais on pourrait mettre un point après éloquent. Il a été éloquent tout court. Je pense que les Québécois ont découvert tout un tribun, tout un homme de discours, peut-être mieux compris. Je me souviens, au début de la semaine, moi-même, on faisait des présentations, parce que comme on savait qu'il venait faire une visite de 3 jours chez nous, pour les gens qui suivent de plus loin la politique française, on vous présentait un peu le personnage, parce que partout où il a été, il a passé, il était le plus jeune. Là. Il était le plus jeune conseiller politique à l'époque des gouvernements socialistes, alors qu'il était dans la vingtaine. Ensuite, dès qu'Emmanuel Macron a fondé son mouvement, il s'est joint, il est devenu le plus jeune ministre là, dans les gouvernements de la République en marche. Il est devenu le plus jeune ministre à 29 ans. Puis là, en janvier dernier, il y a quelques mois seulement, il est devenu le premier, à 34 ans, il est devenu de loin le plus jeune premier ministre de l'histoire de la France. Donc, on comprend mieux le genre de talent, le genre de capacité qu'il a. Et c'est peut-être un bon gars à connaître, comme on dit. C'est pas exclu qu'il devienne un jour le président de la République, quoique, il reste bien des choses. C'est comme l'étape d'après, il faut que tu te fasses élire président de la République, mais il y a déjà des gens qui l'imaginent là.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
Au début du conflit entre Israël et le Hamas, il y avait des craintes qui étaient répétées un peu partout dans le monde, exprimées aussi par autant par la population que par des gouvernements, que ce conflit devienne régional et devienne plus gros que strictement entre Israël, le Hamas, donc en Palestine. Et un des joueurs qu'on disait, on pourrait attaquer du côté de l'Iran, il y a le Hezbollah au Liban. On en parlait moins depuis quelques semaines. En fait, on était surtout inquiet de la situation humanitaire à Gaza. Mais on parlait moins de ce risque d'embrasement régional. Mais depuis 2-3 jours, c'est revenu et en force. Même la compagnie aérienne Lufthansa, compagnie allemande aérienne, a arrêté tous ses vols vers Téhéran, vers l'Iran. Et même chose du côté du gouvernement français. On a envoyé un avis aux voyageurs de ne pas se rendre notamment en Iran. Et donc, on dit... On est, plusieurs disent, là, on est peut-être la plus proche qu'on pense d'un conflit là où l'Iran s'en mêlerait et donc qui deviendrait ni plus ni moins potentiellement une guerre entre l'Iran et Israël. On va tout de suite en parler avec Sami Aoun. Monsieur Aoun, bonjour.
Bonjour, monsieur Durand.
Bon, vous, vous la craignez, cette possibilité-là?
Oui, certainement, surtout après l'attaque contre le consulat iranien à Damas et après avoir neutralisé au moins une génération des officiers iraniens qui étaient déjà formés par l'ancien généralisme Qasem Soleimani que les Américains ont assassiné il y a encore 2 ans. Alors pratiquement, oui, c'était une humiliation assez importante pour les Iraniens. Le fait que le guide iranien, M. Khamenei, a déjà dit que Israël va recevoir une gifle et que c'est impossible de ne pas punir Israël. Alors à ce moment, on voit que le ton monte et il y a quand même une fièvre qui pousse encore plus. Nous sommes peut-être à quelques heures d'une certaine réplique iranienne, mais peut-être les consultations diplomatiques, les navettes diplomatiques même, je dirais, est en train de la rendre moins théâtrale comme celle réplique pour venger le général Soleimani. Alors, à cette fois-ci, il y a plusieurs possibilités ou options devant le régime iranien. S'il va aller dans une guerre ouverte ou plutôt une frappe mesurée, encadrée et quand même avec une certaine entente sous la table peut-être avec les Américains. Et ici, le régime iranien a besoin de sauver sa face, a besoin de réhabiliter sa crédibilité, puisqu'il a toujours utilisé ce qu'on appelle la guerre de procuration. Il a utilisé ses forces mandataires miliciennes, Hezbollah, les milices chiites et aussi le Houthi, et avec sa connexion avec Hamas, qui est quand même assez importante. Alors ici, il a besoin de dire « Non, je suis crédible, c'est vrai que je n'ai pas appliqué ce qu'on appelle l'unité des fronts quand il y a eu le 7 octobre et l'invasion israélienne de la bande de Gaza, mais à ce moment-ci, je suis touché directement et je dois répondre directement. » Alors ici, on va voir quel genre de réplique il va mettre en application.
On parle de, comme on dit, réplique. Là. C'est cette attaque d'Israël contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. Qu'est-ce qu'Israël visait? Là? Qu'est-ce qu'Israël a voulu faire et pourquoi ça mériterait telle réplique?
Oui, c'est venu dans une période où Israël était un État provocateur. Elle appliquait une politique de provocation contre le Hezbollah pour l'amener en guerre, peut-être pour recréer un nouvel ordre sur les frontières libano-israéliennes et simplement pour peut-être activer une dynamique américaine pour mettre en ordre ce qu'on appelle la résolution 1701 et que le Hezbollah se retire vers le fleuve Litani à peu près 40 kilomètres. Mais cette fois-ci, ils ont touché directement les Iraniens pour provoquer encore plus. Et maintenant, les Iraniens sont dans cette posture de répondre à la provocation israélienne. Mais généralement, le régime iranien a une très bonne lecture le 7 octobre et l'après 7 octobre. Il comprend que les Israéliens sont dans une posture de guerre existentielle, donc ils ne vont pas accepter de retourner à l'avant 7 octobre et ils ne vont pas accepter qu'il soit le cas, surtout dans la bande de Gaza, que le Hamas, parrainé par l'Iran, reprenne le pouvoir et reprenne certainement la gestion de la bande.
Est-ce qu'une guerre, parce que là, bon, on parle d'une réplique de l'Iran à ce qui s'est passé à l'ambassade à Damas, on parle pas au consulat, pardon, à Damas, on parle potentiellement bon, d'Israël qui pourrait répliquer à la réplique. Comment vous évalueriez les risques que tout ça devienne une véritable guerre, là, une guerre ouverte en bonne et due forme entre Israël et l'Iran? Est-ce que ce scénario-là existe? Est-ce qu'il est trop pessimiste?
Non, à vrai dire, ça dépend de la nature de la frappe iranienne. Si c'était, par exemple, par des drones dans des territoires ouverts, comme on les appelle, et on épargne les grandes villes israéliennes et ne touche pas des bases militaires sur le territoire israélien, peut-être limitrophe, via le Golan ou via, par exemple, le Negev, alors à ce moment, ça devient mesuré et limité. Et si jamais les Iraniens vont utiliser soit des missiles balistiques, soit quand même beaucoup de drones et d'autres peut-être possibilités de frapper des roquettes par les alentours d'Israël, à ce moment, la réplique israélienne peut être aussi mesurée, mais ça pourrait être une occasion pour tester la puissance iranienne et frapper peut-être le cœur de ce que les Iraniens ont jalousement toujours protégé, le projet nucléaire. À ce moment, les Américains, et on l'a remarqué dans les dernières heures, sont très solidaires avec les Israéliens. Ils ont dépassé leur divergence avec M. Netanyahou en tant que personne. Et maintenant, on revient à une alliance stratégique américaine très solide. Les Américains vont envoyer des renforts et certainement, ils vont aider les Israéliens à bien surveiller les activités iraniennes. Et sur ce point, les Israéliens ont un bon système de défense, ou c'est ce qu'ils prétendent au moins, et les DOM et d'autres, par exemple, comme la fronde de David, mais aussi, il faut jamais sous-estimer la puissance de nuisance de l'Iran. Et l'Iran, certainement, va essayer de toujours protéger le Hezbollah, parce que le Hezbollah, c'est leur joyau de la puissance iranienne, et ils ne veulent pas le sacrifier facilement, malgré que le Hezbollah aussi a une forte puissance de nuisance, mais la guerre devient à ce moment très destructrice, et pour le Hezbollah, et pour le Liban, certainement.
Pour réfléchir à la stratégie iranienne, il ne faut pas penser comme chez nous ou comme un État régulier où il y a une seule armée en bonne et due forme. C'est comme s'il y a l'armée iranienne, mais à côté, l'Iran finance plein de bras, de milices, de bras armés qui sont, dans le fond, qu'ils envoient en avant, qu'ils envoient en action pendant que leur armée, leur propre armée officielle reste en retrait.
Vous avez bien raison, depuis quarantaine d'années, les Iraniens ont monté ce qu'on appelle vraiment des tentacules. Des tentacules qui viennent de Houthi, le Hezbollah, les milices chiites en Iran et même en Syrie. Il n'y avait pas de Syriens qui feraient des milices pro-iraniennes, ils ont apporté des Afghans et des Pakistanais. Alors, sur ce point, oui, les Iraniens ont réussi beaucoup. De façon, je dirais, même géniale au niveau militaire, de créer des mandataires qui, en leur nom et selon leurs directives, pouvaient s'engager dans des guerres ou faire des attentats, suicides ou autres, contre les Israéliens et contre les Américains et les Occidentaux en général.
Double question, ces gens-là, par exemple, quand on dit que le Hezbollah travaille là, par en arrière pour l'Iran. Est-ce que l'Iran les paye? Est-ce que ces gens-là sont comme des milices salariés? Est-ce que l'Iran leur paye juste du matériel ou leur paye aussi une espèce de compensation ou un salaire? Et double question, est-ce que ces gens-là, est-ce que le Hezbollah prend ses ordres officiellement de l'Iran?
Oui, alors sur un point le plus essentiel, c'est pas le matériel, c'est le lien organique au niveau idéologique. Le Hezbollah paye une allégeance idéologique à toute la révolution khoméniste, à la personnalité de Khamenei et adopte à peu près tous les fondements de la vision khoméniste iranienne. Sur ce point, ils ne sont pas des mercenaires en ce sens. Mais encore, au niveau militaire, oui, ils sont financés totalement. Et qu'on a vu maintenant que, par exemple, au niveau de l'armement de Hezbollah, les Libanais n'ont pas payé aucun sou pour ça. C'est-à-dire, c'est tout est livré par l'armée iranienne ou Faylaq al-Quds particulièrement. Et l'autre point aussi, il y a des salaires parce que à peu près le Hezbollah pourrait s'en charger, mais on sait très bien que M. Nasrallah, le secrétaire général de Hezbollah, l'a très bien dit, je suis un soldat dans l'armée de Khamenei. Alors sur ce point, il n'y a pas vraiment à quoi s'en douter que le Hezbollah lui-même n'a pas cette conviction profonde idéologique comme dans les islamismes radicaux généralement, mais aussi que oui, il est quand même, pour les critiques, on dit qu'il est simplement un petit bataillon dans l'armée iranienne. Au moins, c'est la perception de ces critiques.
En conclusion, comment vous, la décision, par exemple, du transporteur aérien, quand même un géant là, du transport aérien, Lufthansa, l'allemande, qui se rend plus en Iran, vous l'interprétez, vous, comme la prudence de gens bien informés qui veulent pas se retrouver dans une guerre, qui veulent pas faire atterrir leur avion entre les missiles?
Oui, vous avez bien raison de le dire, parce que aussi les Iraniens ont certainement fait preuve d'une certaine ambiguïté assez importante pour faire une pression psychologique sur Israël. Ça, c'est clair que les Israéliens sont quand même sous forte pression en ce sens. Et en même temps, ils sont en train de négocier, surtout avec les Américains, quelle est la porte de sortie de cette crise. Et si jamais il y a une confrontation, comment on pourrait chercher peut-être une entente politique de façon que les Iraniens certainement gardent et sauvegardent leur rôle comme acteur régional, une superpuissance régionale, il faut le dire, les Iraniens, mais en même temps, on va voir quelle serait la réplique israélienne, parce que si jamais la réplique israélienne va être, par exemple, une frappe électromagnétique ou d'autres façons de frapper, certainement les aviations étrangères seraient vraiment à risque dans cette période.
À surveiller, donc on nous dit même dans les 24-48 prochaines heures, il pourrait y avoir du mouvement sur ce front. Sami Aoun, directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient, la chaire Raoul d'Endurant, merci.
Merci à vous.
Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
Alors, on a besoin de travailleurs dans l'industrie de la construction. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a lancé ce programme de formation accélérée avec les gens qui sont ni plus ni moins que payés pour étudier, là, qui reçoivent un dédommagement, une paye pendant la période de leurs études. On a dit, ben, il faut faire ça parce que là, comme on l'a fait pour les préposés aux bénéficiaires, on a besoin rapidement de travailleurs de la construction, autant pour le résidentiel que pour rénover nos écoles, nos hôpitaux, nos ponts, tout ce que vous voulez, et tous les autres travaux à Hydro-Québec. Mais là, ce matin, on voit que l'Alberta met en place tout un programme pour aller recruter des travailleurs de la construction, pas juste au Québec, mais dans toutes les provinces. Crédit d'impôt remboursable de 5 000 $. Puis là, le journal, tant qu'à faire ce matin, fait la comparaison des taux d'imposition. Et on n'est pas à la même place pantoute, là, au Québec et en Alberta. Alors, est-ce qu'il y a un risque que le Québec perde des travailleurs? Est-ce qu'il y a un risque que ces nouveaux travailleurs qu'on aura formés avec les fonds publics québécois aillent ensuite travailler sur les chantiers albertains? Guillaume Hull, responsable des affaires publiques à l'Association de la construction du Québec, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Est-ce que ça vous fait peur, cette campagne de recrutement de l'Alberta?
Peur, non. Est-ce qu'il y a un risque? Certainement. Le risque zéro n'existe pas. 5 000 $, c'est pas négligeable non plus. Ceci dit, quand on compare les pommes avec les pommes et qu'on regarde les conditions de travail des travailleurs du Québec à l'échelle canadienne, on est très, très, très avantagé au Québec, là. Le taux horaire à 45 $ de l'heure, un fonds de pension qui est comparable à celui de l'État québécois et des assurances qui sont pratiquement payées à 100% par les employeurs du secteur de la construction.
Il n'y a pas ça en Alberta. Donc,
ça se compare un peu. L'Alberta est la province qui talonne le Québec sur les avantages et l'Ontario également, mais le Québec se trouve en tête de peloton,
là. OK. Mais là, il faut ajouter au. Là, le 5 000, c'est comme un programme, on va dire, spécifique pour recruter des travailleurs de la construction, là, mais tout secteur confondu, si on regarde juste les tables d'impôts, au Québec, là, on paye 14% sur le premier 50 000, après ça 19, après ça 24 jusqu'à 126 000. Je veux dire, l'Alberta, là, le pas de 14, 19, 24, là, c'est 10% pour tout ce monde-là, 10% d'impôts. Pensez pas qu'il y a des travailleurs de la construction qui vont sortir leur calculatrice?
Quelques-uns, certainement. Ceci dit, on a des avantages aussi au Québec, dans notre société. On a les garderies, par exemple, qu'ils n'ont pas. En Alberta, il y a le programme fédéral, mais il n'y a rien de comparable avec ce qui se fait au Québec en termes de garderies. Mm-hmm. Nos universités, nos écoles sont subventionnées davantage au Québec qu'elles ne le sont en Alberta également. Il faut y penser deux fois, là. Quand on quitte notre province, quand on quitte notre famille, quand on quitte nos proches, aller s'expatrier dans une province qui est à plus de 3 heures d'avion et plus d'une dizaine d'heures de route, là.
De route, d'après moi, on est plus proche de 30-40, là.
30-40.
Oui, c'est plus loin. Exactement. C'est plus loin que la Floride, là. C'est pas mal plus loin que la Floride, l'air de rien. Le programme, revenons plus précisément au programme qui est offert, là, qui met des gens en formation, qui sont payés pour le faire. Vous avez toujours foi que ça va représenter un apport, parce qu'on a entendu toutes sortes d'affaires, qu'il y en a là-dedans qui sont inscrits au programme mais pour finir leur sous-sol ou pour rénover des Airbnb à leur propre compte. Vous avez l'impression que ce sont des exceptions, que la masse va vraiment cet été là, travailler ces chantiers?
C'est une confirmation qu'on a actuellement quand on parle au centre de formation professionnelle. Plus de 95% des gens qui sont dans les centres de formation professionnelle, dans les formations accélérées, devraient se trouver un emploi dans le secteur de la construction. Dès cet été, on a visité un centre de formation professionnelle à Québec, une cohorte en ferblanterie, et 100% des étudiants qu'ils étaient en train d'apprendre leur futur métier étaient déjà placés chez des futurs employeurs. Ah oui. Donc, on voit que le programme fonctionne très bien actuellement. On a bon espoir, mais comme je vous disais d'entrée de jeu, c'est le même constat qu'on a pour l'Alberta également. Le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours des risques qu'on perde des joueurs en cours de piste. Et on verra pour la prochaine cohorte, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre, par exemple, des conditions d'admission. Parce qu'au ministère, on nous confirme aussi que si les employeurs avaient eu à remplir de la paperasse pour conserver les gens là, sur les chantiers, un peu comme on le voit dans le secteur de la santé, ça aurait amené beaucoup, beaucoup de tracas pour nos employeurs. Puis si on ne voulait pas aller là, de la lourdeur administrative dans le secteur de la construction au Québec, on en a
assez. Oui, c'est ça, vous en avez déjà assez. Oui, on peut se l'imaginer. Je reviens aux comparaisons avec l'Alberta. C'est quoi le... Est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce que le Québec perd... Dans l'industrie de la construction, là, je vous parle pas tout métier confondu, mais dans votre industrie, est-ce que le Québec perd des travailleurs, mettons, dans les 10 dernières années? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Et l'inverse, est-ce qu'il y a des travailleurs du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario d'ailleurs, qui viennent au Québec? C'est quoi le flux de part et d'autre des frontières?
Mais j'ai pas les données à proprement dit, monsieur Dumont. Ceci étant dit, depuis que le régime pétrolier en Alberta est à la baisse, on voit moins d'expatriés vers l'Alberta pour aller travailler, pour aller prêter main forte à ce secteur-là en particulier.
Ouais, ça avait été un gros mouvement là. Hein?
Exactement. Donc, au tournant des années 2010, là, je vous dirais que il y avait un mouvement de migratoire du Québec vers l'Alberta beaucoup plus qu'il y en a un actuellement aujourd'hui. Là, j'ai parlé à quelques entrepreneurs qui me disent que c'est pas du tout un tracas pour eux à l'heure actuelle.
Parlons de résidentiel parce qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle de crise du logement. Est-ce que vous avez des signaux que ça va construire plus cet été? Parce que les chiffres qu'on voit, la Société canadienne d'hypothèques et de logements, c'est pas très optimiste. Est-ce que vous avez des signaux qu'il y aura plus de mises en chantier, une accélération subite, peut-être imprévue, cet été, cet automne, ou peut-être au moins l'année prochaine, en 2025? Ou?
Ben 2025, c'est beaucoup mieux là, dans les chiffres de ce qu'on voit. 2024, devrait ressembler à 2023, c'est-à-dire parmi les plus bas taux de construction qu'on a eu dans les 20 dernières années. Il y a eu pas loin de 38 000 mises en chantier l'année dernière, ce qui est un très bas taux là, quand on regarde ce qui s'est construit depuis les 20, même je dirais les 30 dernières années au Québec. Là. On anticipe quelque chose de beaucoup mieux pour 2025, notamment avec les annonces qui sont prévues la semaine prochaine dans le budget fédéral. Ça s'en vient tranquillement. On sent que l'économie reprend aussi de la vigueur. On devrait voir les taux d'intérêt diminuer. Et c'est surtout ça que les promoteurs et les entrepreneurs attendent là, pour l'instant, avant de repartir complètement la machine les taux d'intérêt font encore très mal, les banques sont encore très gourmandes sur les garanties qu'ils demandent aux entrepreneurs et aux promoteurs. Donc, on a bon espoir que 2025 va être une bonne année comparativement à 2024 et 2023 qui ont été catastrophiques.
Le résidentiel étant si tranquille, je comprends que vos travailleurs travaillent quand même, mais c'est on fait plus de l'industriel ou du commercial, ou on fait beaucoup de l'institutionnel, des rénovations, d'écoles, hôpitaux? Je sais qu'il y a d'énormes quantités de chantiers, mais les travailleurs qui n'ont pas de boulot dans le résidentiel, je présume qu'ils sont pas chez eux, là, ils sont dans quel type de chantier, mettons, l'année passée, l'année qui vient?
C'est surtout dans le secteur institutionnel commercial qu'on a vu la plus grosse hausse du nombre d'heures travaillées dans les dernières années, là. Je vous dirais depuis la pandémie, avec les investissements gouvernementaux, notamment, on a 153 milliards actuellement au plan québécois des infrastructures, plusieurs projets d'hôpitaux, plusieurs rénovations d'écoles, les maisons des aînés ont grugé beaucoup d'heures là dans l'industrie de la construction. Mais l'année dernière, 2023, et ce qu'on anticipe pour 2024, c'est le secteur industriel qui est en train de tirer le plus grand nombre d'augmentations d'heures travaillées, notamment avec les investissements dans toute la filière batterie. Là, ça amène beaucoup de pain sur la planche et on travaille énormément à bâtir les usines de demain actuellement au Québec. Et ça, là, je vous dirais, pour les 10 prochaines années, quand on compare 2022 et 2023, j'ai pas tout à fait les chiffres là, pour 2024, là, mais c'est une augmentation de 15% des investissements dans le secteur industriel. Ça fait son effet à ce niveau-là.
Eh bien, on peut imaginer que quand Nordvolt va se mettre à construire, ça va être un bon chantier, ça va vous prendre un petit peu de monde, là.
Absolument. On avait 12 000 postes vacants l'année dernière dans l'industrie de la construction et on anticipe encore là, un 12 à 15 000 postes vacants pour 2024 au plus fort de l'activité. Mais les personnes qui veulent venir dans l'industrie sont les bienvenues actuellement.
En d'autres termes, si le résidentiel devait reprendre, puis les besoins sont là, il y en a tellement besoin de logements, si le résidentiel devait reprendre sans que le reste là, commercial, industriel ralentisse, on va vraiment, vraiment manquer de main-d'œuvre, mais gravement, là.
On est dans une situation très précaire en termes de main-d'œuvre. Ceci dit, on a des mécanismes, par exemple, avec l'ouverture des bassins de main-d'œuvre qui nous permettent d'intégrer des gens dans notre industrie sans qu'ils aient de formation à proprement dit. C'est pas l'idéal. Les entrepreneurs ne souhaitent pas nécessairement qu'on fasse affaire avec des travailleurs qui n'ont pas de formation parce qu'on doit les former en chantier directement, et ça fait en sorte qu'on a une main-d'œuvre qui est moins productive au jour 1. Ceci étant dit, c'est un mécanisme qui nous permet d'aller chercher la main-d'œuvre dont on a besoin en temps et lieu, mais comme actuellement on est dans une situation au Québec où tous les secteurs ont besoin de main-d'œuvre, tous les secteurs font face à une pénurie de main-d'œuvre, là ça devient plus difficile et on doit se tourner vers l'immigration, par exemple, pour combler nos postes vacants.
Guillaume Houle, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Ça m'a fait plaisir, M. Dubon. Bonne journée.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
Bonjour.
C'est la visite de Gabriel Attal qui continue à retenir beaucoup d'attention ici au Québec et surtout le discours qu'il a fini par livrer un peu en retard, mais qu'il a livré tout de même hier au Salon Bleu. Discours dans lequel il n'a pas pris position, bien évidemment, suivant sa ligne de non-indifférence, non-ingérence envers le débat sur un futur référendum d'indépendance du Québec, mais...
D'autant plus que le débat se pose pas beaucoup présentement. Là. La pression, à part quelques journalistes, la pression n'était pas si forte sur lui cette fois-ci.
Non, mais il a abordé quand même un autre enjeu qui est assez sensible ici dans les relations Canada-Québec, l'enjeu de la laïcité. Là. Alors qu'on apprenait hier dans la même journée là, que mercredi soir du côté de la Commission scolaire English Montreal, on va pousser jusqu'en Cour suprême la contestation de la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21. Ben, M. Attal fait un vibrant plaidoyer là, pour la laïcité ici au Salon Bleu en disant que c'était un des éléments pour lui de la liberté et de la démocratie. Parce qu'en France, il y a une longue tradition quand même de laïcité aussi. C'est un point commun qui vient rejoindre quand même le Québec et la France. Puis c'est une apparition quand même solide que fait M. Attal ici, qui a marqué les esprits.
D'abord, je pense que les gens ont découvert un orateur hors norme, un orateur de grand talent. Peut-être explique les gens qui se demandaient, voyons, lui, il était partout ce qui est passé, le plus jeune ministre, plus jeune premier ministre, tu sais, il gravit les échelons, là, les marches d'escalier une par année.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe avec cette carrière-là? Ben, peut-être les gens vont mieux comprendre que c'est une vedette politique présentement en France et pourquoi. Mais, il a redit ce matin, là, il a réexpliqué, il a soutenu sa position sur la laïcité en point de presse, et c'est une position fondamentale. Il a été lui ministre de l'Éducation pendant 6 mois. Il a agi sur la question des signes religieux. En fait, il a renforcé une loi qui existait déjà. Donc, c'est un naturel pour lui. Là. Il invente rien pour faire plaisir au Québec. C'est un naturel pour lui. C'est un naturel dans ses prises de position. Mais on comprend que François Legault était très, très, très content de ça. Et ça vient vraiment renforcer sa position, renchausser sa position. Ça vient aussi nous sortir un peu de la... Parce qu'à un moment donné, ça devient juste de la poutine. C'est-à-dire que nous, mettons, là, au Québec, quand on a parlé de la laïcité, là, puis là, je parle pas, mettons, il y a plusieurs années, mais dans la dernière année, mais là, on appelle ça la loi 21, puis là, ils contestent devant les tribunaux, puis là, ils vont aller en appel, puis là, en appel, le gouvernement a gagné, puis là, ben là, maintenant, ça va à la Cour suprême, puis la Cour suprême, le fédéral va s'en mêler, puis le fédéral va payer les avocats. Puis... Tu vois, on est dans toutes sortes de mécaniques, au point où on ne parle plus jamais, on parle de la prochaine étape, là, tu comprends, dans une espèce
dans
de...
Dans une contestation judiciaire, mais plus de la laïcité comme principe fondamental.
Pourquoi on a fait ça? Pourquoi c'est... Alors, quand quelqu'un arrive de l'extérieur, comme là, un premier ministre français, lui, probablement qu'il est même pas au courant du fin détail de toute la mécanique des contestations, de tous les problèmes, puis... Tu sais, lui, c'est plus le concept général.
Mm-hmm.
Et donc, vient ramener ça, tu sais, vient ramener le débat à ses sources fondamentales. Et ça, ça fait du bien. Puis je dirais, moi, ma prédiction, c'est qu'on a un François Legault de bonne humeur là, pour 3 semaines, 1 mois.
Hey, oui, t'as-tu vu son visage à côté de M. Attal? Il le regardait parler avec les étoiles dans les yeux, gros sourire.
Il n'y a pas le même style, hein?
Non.
pas la même façon d'exprimer les choses, tout le panache et la finesse, alors que François Legault garde les choses plus simples, fait plus l'homme d'affaires, là, qu'il faut que ça marche, puis tout ça. T'avais deux styles, mais ils s'entendaient là-dessus, et ça sort pour une semaine, ça sort François Legault de, ben là, les écoles, les hôpitaux, tout ce qui marche pas, puis tous ces problèmes. Les problèmes qui sont le quotidien de n'importe quel gouvernement du monde, là, tu sais.
Ce qu'il appelait les distractions.
Du quotidien. Donc là, il était sorti de ça pendant quelques jours, et donc ramenait des choses plus fondamentales.
Oui. Une autre chose fondamentale de laquelle on parlait, mais c'est le français, hein, une déclaration commune aujourd'hui pour renforcer le français ensemble, qui a été signé, parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, là, ce processus-là avec la France, ça datait de 2016, donc il fallait renouveler tout ça, parler encore une fois des géants du web, les GAFA et tout ce que ça entraîne aussi là, comme empiètement de l'anglais sur la langue française, donc ça aussi, bien, c'est une autre valeur commune.
Deux petites remarques, il ressort quand même un point d'interrogation de cette visite, c'est la prochaine qui n'est non pas celle-là de M. Attal, mais de son boss.
M. Macron.
Du président de la République, Emmanuel Macron, dont on sait maintenant qu'à la fin de l'été, il va venir au Canada. Et j'insiste pour dire il va venir au Canada.
Pas au Québec.
Ben, on le sait pas. Ben, pour l'instant, ce qui a été dit, c'est que non, dans le programme, entre guillemets, préliminaire, tel que préparé à l'heure actuelle, il viendrait pas au Québec. Mais ce matin, à LCN, je parlais avec Lynn Beauchamp, là, qui a l'expérience qui a été pendant quelques années la déléguée du Québec à Paris, donc qui a vécu les relations. Elle a dit, soyons prudents. Parce que, au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la France, c'est pas le plus chaleureux que le Québec. Pour eux autres, là, gardons ça simple, on fait affaire avec les ambassades, puis l'ambassade est à Ottawa, puis nous autres, on fait affaire avec le Canada. Puis, ça, semble-t-il que c'est pas le ministère le plus sympathique au Québec, là. Le ministère de la Culture ou le bureau du premier ministre... qui font des relations avec le Québec. Donc, elle me disait, Lynn Beauchamp, ben, ça se peut que la première version, on organise un voyage au Quai d'Orsay, on n'a pas la sensibilité québécoise. Et quand quelqu'un, peut-être même Gabriel Attal de retour de voyage, peut-être même que le président Macron lui-même ou quelqu'un d'autre va dire, hey, si vous passez pas au Québec, là, c'est pas un scandale, mais c'est un malaise, mettons.
Ouais, ça va pied de nez, là.
Oui, ça va être souligné, puis dans l'amitié entre la France et le Québec, ça va... tu sais, de dire le président français passe au Canada. Il semble-t-il que c'est arrivé une fois dans l'histoire qu'un président français qui voulait, je pense que c'était la question de l'énergie, puis allait juste dans l'Ouest canadien, ne s'était pas arrêté au Québec, puis ça avait été mentionné. Donc, est-ce que Emmanuel Macron pourrait le refaire, ou est-ce que il y a des interventions qui vont se faire, puis il va faire un petit saut au Québec ou un arrêt sur le chemin dans un des aéroports québécois?
Pourrait, parce que là, il est dans les maritimes, de ce que je comprends du trajet préliminaire des maritimes. suggestion, il pourrait s'arrêter en Gaspésie, hein? Manger de la guédille, puis regarder les paysages, ben ça ferait du bien.
Tout est pour aller aux îles de Madeleine.
Pour aller aux îles de la Madeleine.
C'est un seul Québécois. Donc, à surveiller, à suivre ce qui va arriver avec le voyage du président Macron. L'autre petite remarque, accessoire au voyage, c'est l'absence de députés là, qui a été remarquée quand même hier. Entre autres, des députés de Québec solidaire. Moi, ça m'a frappé quand Gabriel Nadeau-Dubois, parce que moi, j'ai réécouté là, les discours, ben, voyons, on dirait que Gabriel, il est tout seul. Tu sais, on en voit un ou deux derrière de lui, mais c'est tout vide autour.
Ouais, les banquettes, là, les bancs de l'Assemblée nationale, il n'y avait personne.
Ben, il en manquait plusieurs. Alors là, on nous dit Québec solidaire, là, on met de côté Manon Massé qui a des problèmes de santé, mais il en manquait quatre. Là, il en manquait plus que le tiers des députés en santé. Là. Est-ce que c'est normal? Il a l'air qu'il manquait aussi quelques libéraux. On a souligné ça. Bon. Mais dans le cas de Québec solidaire, un parti qui se dit nationaliste, veut faire la souveraineté, le premier ministre français se présente à l'Assemblée nationale. Ce matin, j'ai interviewé Ruba Gazal. Elle me dit non, on avait des affaires indéplaçables. Finalement, elle pose plus de questions. Deux députés étaient dans une réunion avec un petit groupe d'élèves. Dans le comté de Taschereau, c'est le comté du Parlement. Le Parlement est dans le comté de Taschereau. Donc, ils étaient
dans le coin. Là.
Ils étaient juste à côté, dans une réunion prévue, semble-t-il, indéplaçable. Mais tu sais, avec un groupe d'élèves, en début de soirée, à l'heure du souper, je sais pas trop. Donc, c'était un petit peu curieux, un petit peu bizarre. Et d'autant plus que il y a un député de Québec solidaire qui avait, quelques jours avant, deux jours avant, parlé en mal. Contre, ben, pas Gabriel Attal, l'individu, mais que ce parti-là, c'est pas un parti dont on respecte les politiques, dont on aime les politiques, on n'aime pas leur politique, puis tout ça, dans une sortie extrêmement maladroite. Fait que là, tu te dis, OK, est-ce qu'on fait 1 plus 1 égale 2? On n'aime pas tellement ce parti-là, puis sais-tu quoi? Mais finalement, on se présentera pas. On nous jure, je vous dis, j'ai parlé à des gens aujourd'hui de Québec solidaire, des communications, on nous jure qu'il n'y a pas eu de mouvement concerté, qu'il n'y a pas eu de boycott, que c'était des activités prévues, qu'on peut...
Mais disons que l'apparence
est vraiment pas bonne, puis il en reste quand même pour Québec solidaire, là, au minimum, si je veux être généreux, une trace de mauvais jugement là, dans l'établissement des priorités à l'agenda.
Tout savoir en 24 minutes.
Suivi dans cette histoire de la fille des chroniqueurs, ici à Cube Radio, Richard Martineau et Nathalie Collard de La Presse, hein, qui avaient reçu un coup de poing en plein visage à une station de métro la semaine dernière. On dit que la femme, la suspecte dans cette histoire-là, femme de 35 ans, a été arrêtée par la police, par la SPVM, là, il y a à peine une heure, Mario. Nouvelle qui est tombée là, sur le fil de presse. Devrait comparaître vendredi après-midi. On parle d'accusation de voie de fait qui aurait causé des lésions corporelles.
Est-ce qu'elle est en mesure, parce qu'il semblait avoir un questionnement, est en mesure de faire face à la justice?
C'est préliminaire pour le dire. Puis là, va falloir voir dans...
Ben, ça semblait même être une question, là, a priori, quand on nous racontait l'événement.
Oui, parce que c'est pas comme si il y avait eu là, altercation ou échange de paroles. Non, c'est du rapport qui a été fait à la police. La femme est sortie du wagon de métro, puis en sortant, criait, avait l'air complètement instable, puis aurait donné un coup de poing là, sans aucune raison apparente, donc, à la fille de Richard, notre collègue ici. Donc, bonne nouvelle, au moins, on verra après ça qu'est-ce qu'il y en est. Puis comme tu dis, c'est beau une comparution, mais si on a affaire à quelqu'un qui a des problèmes graves de santé mentale, consommation de drogue...
Qui ne sait même pas ce qu'elle fait au tribunal ou ce qu'elle a fait la semaine passée, c'est une autre affaire.
C'est une autre affaire, mais dans tous les cas, ça fait une personne auprès duquel on va pouvoir avoir une intervention.
Il fallait faire cette intervention-là, il n'y a pas de doute. Je m'interroge juste à savoir est-ce que la personne va être en mesure là, de subir son procès.
Actualité.
On a aussi du nouveau du côté de l'enquête sur Megan Lalonde, Mario. Dossier...
Maître! Ah non, on dit pas maître.
Maître. Hein. Pas sûr qu'on peut le dire. En tout cas, selon le barreau du Québec, on peut absolument pas le dire dans le cas de maître. On va le dire en riant en ce moment. Megan Lalonde, article de notre collègue Francis Pilon du Journal de Montréal qui suit cette histoire-là à la trace. Et là, on a un peu de nouveau dans ce dossier-là. Parce que, je rappelle, l'histoire, c'est une femme là, qui arnaquerait un peu partout au Québec des gens qui viendraient chercher auprès d'elle des espèces de conseils juridiques. Là. Je dis conseils juridiques entre guillemets. Parce que je répète, ce n'est pas une avocate, cette femme-là. Elle le prétend, mais elle ne l'est pas.
Mais sur les réseaux sociaux, elle se présentait comme avocate.
Présente comme une avocate, puis avec une apparence là extrêmement léchée, voire même suspecte. Là, une femme là, blonde qui s'affichait là un peu partout, vraiment presque comme une influenceuse, Mario. On veut le voir ici à l'écran pour ceux qui écoutent là, en direct les images qu'elle prenait. Et là, ben, c'est que depuis que ça a été publié une première fois, là, parce que le vin modus operandi, hein, cette dame de 24 ans partait là, donc sur ses réseaux sociaux, disait « je peux offrir des conseils », les gens l'approchaient, elle demandait un dépôt pour donner des conseils juridiques. Quand quelqu'un en ligne vous demande un dépôt pour à peu près quoi
méfiance.
Que ce soit, méfiance, surtout quand c'est des conseils juridiques, évidemment, les gens qui lui donnaient l'argent en question, ben elle disparaissait sans jamais laisser de traces et sans répondre à la personne. Et là, depuis qu'il y a eu ces révélations-là du journal, semble-t-il que nos collègues ont été contactés par pas mal de monde qui se sont mis à dire « Madame Megan Lalonde, c'est parce que c'est pas ses premières frasques. Elle aurait fraudé toutes sortes de gens. » On dit en Beauce, à Shawinigan, à Joliette, à Gatineau, il y a au moins 6 accusations de fraude par le passé qui ont été déposées contre cette femme-là.
Mais pas pour la même chose, pour d'autres types, pas pour des histoires d'avocates, là.
Avant ça, par exemple, elle avait vendu, selon un témoignage qu'on a reçu sur un site de liquidation, un gazebo à 4 000 $. Quelqu'un a payé, il a jamais reçu le gazebo, elle a refusé de rembourser, le gars a dû se battre avec sa carte de crédit pour récupérer ça. Mais elle a véritablement fraudé dans toutes sortes, là, de stratagèmes par le passé.
Et était condamnée dans le passé.
Et était condamnée.
Donc, elle a une certaine expérience du droit, même si elle n'est pas avocate comme telle.
Le plus drôle, c'est qu'elle
a été condamnée.
Tu ris, Mario, mais elle prenait des vidéos et elle publiait. Et surtout, ce qui est le plus drôle, c'est qu'on nous envoie un cliché de la dame en question, Megan Lalonde, là. À droite, l'image qu'elle présentait sur ses réseaux sociaux, pour ceux qui regardent. À gauche, on a Megan Lalonde dans vraie vie. Elle met des filtres et des filtres puis des logiciels d'intelligence artificielle par-dessus elle-même, de ce qu'on comprend, pour modifier son apparence.
Elle est modifiée. Je confirme.
Voilà. Donc, qu'elle modifie comme ça, puis ça va encore plus drôle. Maintenant, tu dis, oui, elle a une expérience du palais de justice. On comprend même qu'elle publiait des stories, hein, tu sais, des photos, des petites histoires comme ça sur les réseaux sociaux, alors qu'elle se trouvait au palais de justice en disant, ah, je me promène, là, je suis en deux salles de cours, je suis essoufflé au palais de justice de Drummondville. Mais c'est parce que t'es pas là pour représenter quelqu'un autre qu'elle-même, Mario.
Elle est accusée.
Voilà, elle est accusée dans ces dossiers-là.
Ouais. Alors, ben, mais c'était pas faux qu'elle courait dans le corridor du palais de justice. Mais...
Non, ça, là-dessus, on ne peut pas dire qu'elle a menti.
Ouais.
Voilà, et là, ben, elle a été contactée par nos collègues, aujourd'hui même, et elle a dit que...
Parce que là, c'était pas son vrai nom non plus. Elle est pas maître, mais elle est pas non plus Megan Lalonde.
Mais elle dit qu'elle ne s'appelle pas Megan Lalonde, qu'elle s'appelle plus Megan Lalonde, en disant que c'est pas son vrai nom. Elle insiste pour dire qu'elle est encore avocate, qu'elle l'est, là, que ça, c'est tout ça, c'est confirmé de son côté. Sauf que, ben, toutes les victimes potentielles, là, qui ont contacté nos collègues, disent que oui. Son nom, c'est bel et bien Megan Lalonde, c'est le nom qu'elle utilisait, puis c'est le nom qu'elle utilise. Mais Mme Lalonde, elle, a nié là, au journal en disant que si elle fraude depuis des années, ben pourquoi elle n'a pas été arrêtée? C'est que tous les chefs d'accusation qu'elle a eu jusqu'ici, ben c'est des... elle a fait, par exemple, des travaux communautaires, elle a fait des périodes de probation, elle a payé des amendes, mais elle n'a pas fait de la prison, là. C'est pas des fraudes assez grosses et énormes pour qu'elle puisse aller faire du temps dedans.
Mais parce qu'au Québec, là, à moins d'un meurtre, faut que tu le demandes au juge, faut que tu supplies le juge.
Supplier de aller en prison.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça ressemble à ça. Donc, c'est toute une histoire, tout un travail de nos collègues du journal. Je rappelle Francis Pilon qui était là-dessus, entre autres. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite pour cette... fausse avocate, parce que là, le barreau du Québec a déclenché une enquête aussi sur son cas, parce que croyez-le ou non, prétendre que vous êtes avocat quand vous ne l'êtes pas, ben, vous pouvez pas faire ça.
Non, mais c'est une faute, mais si elle est vraiment avocate, si elle a néanmoins commis des fautes professionnelles en tant qu'avocate.
Là. Oui, puis en tant qu'individu aussi, le vendre un gazebo puis jamais le donner, ça non plus, c'est pas gentil.
J'ai l'impression qu'on va entendre parler d'elle.
Tout savoir en 24 minutes.
Annonce aujourd'hui de la vérificatrice générale du Québec qui va enquêter sur une situation qui a été qualifiée de fiasco par le ministre qui dirigeait lui-même l'opération un peu de loin, le déploiement de SACLIC, hein, du côté de la Société d'assurance automobile du Québec. Peut-être que c'est rendu un mauvais souvenir dans la tête de certains, mais quand ça a été déployé, ça a été un beau gâchis, merci. Là.
Mais c'était janvier-février, surtout février de l'année passée, là, 2023, mais en avril, à pareille date de l'année passée, on était encore dedans, on était plus au cœur de la crise, mais il y avait encore des files d'attente, il y avait encore des gens qui avaient des problèmes. Là,
ben oui.
Les gens, exemple, qui déremisaient un véhicule qui avait été remisé pour l'hiver, ben, il y a eu des problèmes jusqu'à pareille date l'an dernier et plus.
Ouais, ça a été très long, là. Les deux semaines pendant lesquelles on a fermé tous les centres de services de la SAAC, ben, ça a causé des files monstres par la suite dès qu'on les a réouverts.
D'autant plus que ça marchait pas complètement, les nouveaux systèmes marchaient pas complètement, l'inscription. On pensait faire des miracles en disant dorénavant, les gens vont pouvoir faire leurs transactions en ligne, donc ils se présentent plus dans les succursales. mais tout ce qui était inscription en ligne a connu des ratés épouvantables. Donc, il y avait encore plus de monde dans les succursales. Puis on a fini par dire aux gens, mais si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire en ligne, venez nous voir en succursale pour qu'on vous le montre. Donc, ça a été bordélique. Et là, la vérificatrice générale enquête à son tour.
Oui, elle va se pencher, Mme Guylaine Leclerc, là-dessus, parce que le contrôle lui-même, là, pour sa clique, on savait combien ça a coûté, 573 millions de dollars, hein, un beau demi-milliard pour tout ce beau déploiement. C'était excessivement onéreux. Mais on apprend aussi l'argent que ça a coûté juste gérer la crise
elle-même. Oui, ben, en temps supplémentaire, en embauche de personnel d'urgence, de sécurité.
465 personnes qu'on a embauchées d'urgence, 28 millions aux contribuables. Heures supplémentaires, 6 millions de dollars. Pour des agents de sécurité, 2,9 millions de dollars. Pour la communication autour de la crise, 4,4 millions de dollars. Facture totale, 41,3 millions de dollars, c'est ce que ça va avoir coûté.
Donc la vérificatrice va aussi se pencher là-dessus. Mais autre point intéressant, et je dois confesser, je n'avais jamais vu ça, c'est peut-être moi qui est nono, mais je n'avais jamais vu ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez récent. Maintenant, la vérificatrice générale a un onglet. Si vous allez sur la page, là, il y a un onglet « Participer ou contribuer à cet audit », un audit étant une vérification. Et donc, vous allez cliquer là-dessus et vous allez voir toutes les enquêtes qui sont ouvertes de la vérificatrice générale. Je pense présentement qu'il doit en avoir 12, 13, je ne sais plus trop. Mais vous allez toutes les voir. Donc, ça clique, vous allez le voir. Là, il est en bas à droite. Et vous pouvez participer. Donc, je ne donnerai pas les autres. Mais dans le cas de ça clique, une personne peut y aller. Il faut s'identifier, là, ton nom, ton adresse, qui est-ce que t'es.
Ou même pas, Mario. Il y a moyen de donner des témoignages anonymes.
Je ne savais pas. Moi, j'avais vu qu'il fallait s'identifier. Mais de toute façon, donc là, vous allez avoir un paragraphe, un lieu pour écrire qu'est-ce que vous avez vécu. Vous avez même une place pour mettre des pièces jointes. Donc, si vous avez pris des photos de files d'attente débiles dans la neige dehors, ou si vous avez, par exemple, la SAC, vous envoyez une lettre par erreur, puis une autre lettre, puis vous avez de la documentation qui démontre le ridicule d'une situation, qui vous ont fait attendre, qui vous ont fait travailler deux fois, vous pouvez photographier ou scanner, joindre ces pièces-là et les envoyer. Donc, la vérificatrice veut pas juste vérifier, on va dire, la grosse affaire, là, l'argent, puis tout ça, mais elle veut aussi inclure dans sa vérification ce qu'ont vécu les clients, là, ce qu'ont vécu les citoyens comme désagrément. Puis je trouve ça quand même pas mal intéressant.
Oui, ça reste à voir. Donc, si vous avez eu des problèmes justement que ça clique, allez contribuer.
Ne serait-ce que pour vous défouler.
Oui, juste envoyer des belles photos de vous en train de faire du camping devant un bureau de la SAC. Là.
Ne serait-ce que pour vous défouler, la vérificatrice va recevoir votre plainte.
Économie.
Ça me fait rire, Mario, parce que tantôt, tu parlais là, de devoir supplier un juge pour aller en prison au Québec. Mais on a un autre cas de fraude qui a été répertorié aujourd'hui et qui, justement, démontre encore une fois là, que quand vous passez devant le tribunal, des fois, vous pouvez récidiver presque immédiatement. C'est le cas de Carl-René Moody, qui est un fraudeur en série puis qui a été condamné aujourd'hui là, à devoir rembourser là, des centaines de milliers de dollars à des victimes qu'il a escroquées là, avec une fraude comme on en voit beaucoup là, par les temps qui courent, mais avec un stratagème quand même élaboré là, qui incluait un groupe de personnes. Là. Lui sévissait, cet homme de 21 ans, d'ailleurs, là, pas très vieux, maintenant qui va purger 23 mois de détention, c'est ce qui lui reste. En fait, condamné 23 mois de détention, il reste juste 22 jours, Mario, donc va purger 22 jours et retourner ensuite dans la collectivité. Mais c'est que depuis mars 2022, là, le SPVM le surveillait comme il faut parce qu'il y avait une stratégie assez élaborée, merci. Il était avec des complices et là, ben eux trouvaient des personnes âgées, la plupart du temps, les appelaient, un complice qui appelait en disant « Ben ouais, je suis avec Desjardins, il y a un problème avec votre carte, faut que vous mettiez ça dans une enveloppe et vous nous envoyez tout ça en nous donnant votre NIP. » Et là, ben les gens faisaient la chose, mettaient l'enveloppe. Et là, un autre complice, dans plusieurs cas, ça a été M. Moody lui-même, débarquait chez la personne avec des habits qui étaient des mêmes couleurs, à s'y méprendre, des employés de Poste Canada. Et donc, venait récupérer l'enveloppe en disant « Oui, c'est bon, on prend ça, on va ramener ça chez Desjardins ou chez autres. » Évidemment, prenait la carte, prenait le NIP, allait vider les comptes en banque au grand complet, puis partait avec le magot. C'est ce qu'on comprend de cette stratégie-là.
Quand quelqu'un vous demande votre NIP,
faites juste pas le donner.
C'est non.
Donnez-le jamais.
C'est non.
Quelqu'un vous demande un dépôt sur quelque chose en ligne.
Soit la banque, à la caisse ou à la banque, ce qu'ils vont vous faire, là, ils vont vous donner le terminal, là, puis ils vont regarder ailleurs, puis ils vont vous faire rentrer votre NIP.
Vous demanderons
moi. Tu peux pas le mettre sur un papier, tu peux pas le donner à Pierre-Jean-Jacques, tu peux pas le donner à un inconnu, même s'il y a un costume propre sur le dos. Là,
ouais, exactement. Puis là, ben, dans une période, en mars-juin 2022, lui a joué comme tous les rôles, appelait, se déguisait en agent, allait chercher tout ça.
On a-tu une idée de combien d'argent il a escroqué?
Mais là, le groupe lui-même, là, en tant que tel, on estime qu'il a fraudé pour près de 200 000 $ là, auprès des aînés un peu partout. Là, le problème, c'est qu'il a été arrêté. Par la suite, remis en liberté le jour même. Puis là, mais dès le lendemain, on signale encore une fois des événements de fraude à peu près pareils. On se rend compte ben, qu'il est relié à au moins 4 autres fraudes pendant ce temps-là. Là. Le lendemain où
et
il est relâché.
Et qu'il a eu peur de la justice.
Voilà, c'est terrifiant hein, pour ce jeune homme.
Terrifié, c'est le bon mot, par la justice québécoise.
Voilà, puis on pourra même plus découvrir...
L'effet dissuasif de la justice.
Ouais, puis moi, un détail qui m'a accroché dans cette histoire-là, Mario, c'est que Moody, là, dans l'analyse de ses systèmes informatiques, son cell, son ordi, etc., on s'est rendu compte qu'il a fait au-dessus de 500 recherches sur le site Canada 411, tu sais, pour voir les adresses, le nom du monde, etc. Mais il faisait des recherches avec des prénoms de personnes plus âgées, tu sais, d'une génération, mettons, là. Fait qu'il recherchait Huguette à Verdun. Il y a peu de gens de 20 ans, 30 ans qui s'appellent Huguette, ou moins, mettons, ou Jacques à La Salle, Yvette à Verdun. C'était des recherches qu'il faisait sur son ordi pour essayer de trouver des gens plus âgés, puis ensuite aller les escroquer. Bref, c'est tout un stratagème qui est dénoncé comme ça, puis qui, malheureusement, on le voit, ben, la justice, des fois, c'est pas non, mais super dissuasif.
Pas sévère, oui. Voler des vieux puis ramasser des jours de prison, ben, t'sais, c'est incroyable.
Le monde.
Les tensions sont très élevées en ce moment au Moyen-Orient, alors qu'on s'attendait là, du côté et de la Maison-Blanche et d'Israël à recevoir une attaque de représailles du côté de l'Iran. Et dans la dernière heure, Mario, il y a eu des tirs de roquettes qui ont été effectués là, sur le nord de l'Israël. On a entendu des sirènes d'alarme dans ce coin-là. Quarantaine de roquettes tirées par
est-ce
le Hezbollah.
Est-ce que c'est... OK, par le Hezbollah du Liban.
Voilà.
Donc, c'est pas en provenance de l'Iran.
C'est pas en provenance de l'Iran, mais...
c'est un bras armé qui travaille, une marionnette de l'Iran, le Hezbollah.
C'est ce qu'on
une
sait.
Milice qui travaille pour l'Iran.
C'est ouais. Ce qu'on sait, bien évidemment, mais on a quand même peur, puis même c'est quelque chose qui a été réitéré par Joe Biden, le président américain, cet après-midi.
Non, mais là, les Français ont demandé à leurs voyageurs de plus aller en Iran. Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, a annulé ses vols, ne vole plus sur Téhéran. Il y a une réelle crainte là, que le conflit devienne régional, là, c'est-à-dire Israël, l'Iran, que le conflit... On parlait plus vraiment de ça. On a craint ça après le 7,
Au début,
le 7 octobre. T'sais, les premières semaines, on craignait que ça devienne un conflit régional. Mais là, depuis Noël, mettons, c'est la grosse question, c'est la situation humanitaire à Gaza. Mais il y a beaucoup moins cette crainte-là à l'échelle internationale, beaucoup moins la crainte d'un conflit qui s'embrase à l'échelle régionale. Mais là, c'est depuis 48 heures... c'est revenu dans l'actualité plus que jamais comme crainte.
Ouais, absolument. Puis les États-Unis ont renvoyé des renforts dans la région. Là, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle un Carrier Strike Group, là, qui est déjà là situé dans la Méditerranée. Un porte-avions, plusieurs navires d'escorte. Là, il y a une présence américaine militaire dans le coin qui avait pour but au départ là, de dissuader un peu tout le monde puis les acteurs internationaux dans la région de venir intervenir. Là, on s'attend au pire de ce côté-là. Je rappelle quand même que l'Iran a promis là, verbalement de riposter après qu'il y ait eu une frappe meurtrière le 1er avril dernier contre son consulat à Damas, une frappe qu'ils imputent à Israël. Bref, c'est vraiment loin d'être réglé dans ce coin-là, cette situation-là.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal.
Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps.
Mario Dumont.
Comme on dit en québécois, que ça a fessé. Là.
La rencontre Maréchal Dumont.
Je sais pas comment on va y arriver.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
Il y aura ce dossier en fin de semaine dans le journal sur les animaux de compagnie.
Oui.
Mais vu de l'angle du portefeuille. Ben, de tous les angles. Le fait qu'on les aime et tout ça est sous-jacent. Là.
Ouais.
Mais combien ça coûte?
Mais en fait, c'est que la question qu'on va poser et les réponses sont multiples, c'est combien coûte l'amour que vous avez pour votre animal de compagnie et jusqu'à quel point votre budget est-il élastique? Parce que
et la question qui pourrait être sous-jacente, c'est l'amour étant si grand, est-ce que quelqu'un en abuse?
Voilà, tout à fait.
Est-ce que quelqu'un profite de votre amour pour votre animal?
C'est même le cœur de mon...
Pour facturer.
Si c'est la question que tu me poses, j'aurais tendance à dire, évidemment, on est dans la généralité, Je pense qu'il y a des très bons vétérinaires qui sont tout à fait... Je pense que ça dépend du lien que tu as avec ton vétérinaire. Et d'ailleurs, selon l'Ordre des vétérinaires du Québec, là, le code d'éthique force un peu, en tout cas encourage le vétérinaire. Tu sais, son travail, c'est de te donner le meilleur plan thérapeutique pour ton animal. Si ton animal a un enjeu de santé, le vétérinaire, comme le médecin, comme tout professionnel de la santé, devrait te donner le meilleur diagnostic puis la meilleure solution. Le problème, c'est que t'sais, ça peut aller jusqu'à 10 000 $ là, 15 000 $ pour opérer un chien, mettons.
Mais c'est ce que ça coûte, la santé. C'est parce que comme on paye pas notre santé, comme c'est gratuit dans les hôpitaux, on sait pas ce que ça coûte.
Mais ça, tu dois avoir un ami vétérinaire parce que c'est l'argument. J'ai fouillé un peu là, pour voir quel est l'argument
premier.
C'est
ce que ça coûte.
C'est ce qu'ils disent. Les vétérinaires disent, mais c'est parce que les gens savent pas.
Mais ils pèsent sur le crayon aussi. Là. Je ne nie pas que les vétérinaires pèsent sur le crayon aussi. Là. Ça coûte très cher.
Je peux pas parler pour les autres. Je peux juste te parler de mon expérience personnelle. Nous, on a eu Betty. D'ailleurs, tu sais, moi, je dis pas. J'ai eu un chien, on avait Betty dans notre vie. Betty, c'est quand même un cavalier King Charles. C'est un chien qui était fabuleuse. C'est un chien tellement intelligent. 13 ans de vie avec nous.
OK, je comprends dans ton langage qu'on parle de feu Betty.
Feu Betty.
Oui.
Feu Betty. Et écoute, ça fait une heure que je regarde les photos de Betty. J'ai failli t'amener...
En préparation de cette chronique.
J'ai failli t'amener l'urne de Betty, puis ma fille m'a dit non. Maman, non, quand même pas. Mais pour te montrer à quel point ça va jusque-là, c'est rendu que nos animaux de compagnie ont des urnes. Moi, je me souviens que Betty, on l'a fait incinérer, en fait, dans un... de façon à ce qu'elle soit toute seule dans le bac. Je sais pas si on t'a déjà expliqué ça. Il y a plusieurs bacs.
Que tu te souviennes que moi, je suis un fermier, là.
Bon, mais...
Mon rapport
oui, mais ça
n'a
rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi aussi, j'ai pas grandi.
J'ai toujours eu des chiens.
Ferme,
j'adore les chiens. J'adore les animaux. J'ai deux chiens. Je les promène tous les soirs.
Mais toi, tu veux dire quoi? Tu as un rapport froid avec ton animal?
Non, mais ils n'iront pas dans une urne.
Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est peut-être ton autre côté un peu froid, économique, gratte-cerne. Je sais pas, Mario. T'es-tu gratte-cerne à ce point-là? Moi, quand Betty est morte,
un animal, c'est un animal. Un humain, c'est un humain.
Oui, mais t'as jamais eu à incinérer un animal ou à... Non? Y a-tu un animal de compagnie? Pas un animal de ferme, c'est peut-être autre chose.
Non, mais un animal de compagnie. Mais qu'est-ce que tu regardes? Il est vieux, puis il est malade.
Qu'est-ce que t'as fait?
Mais tu vas l'amener, puis l'euthanasie. C'est pas drôle, c'est un mauvais moment. C'est toujours moi qui l'ai fait chez nous. Puis, tu sais, je suis pas bien. C'est un moment où je suis pas bien. Personne n'est bien, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Il est vieux.
Et combien ça te coûte? Combien ça t'a coûté la dernière fois?
Ah, ben là, j'essaie de l'oublier
en sortant.
C'est
plusieurs centaines de dollars.
Coupe 200-300. Ouais, mais l'euthanasie.
Tu vois, quand Betty est morte.
Il faut disposer du corps.
Voilà, c'est ça, c'est disponible. Puis même, la façon dont tu l'euthanasies, ils vont dire, vous voulez qu'on fasse ça comment? Moi, écoute, t'es à chaud. Là, tu dis le moins cher. Moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a plusieurs façons? Il y a effectivement plusieurs façons. Ça peut être avec tous les autres, là. Tu sais, t'as la version vraiment pas chère. T'as la version moyennement chère, puis t'as la version plus chère. La différence, c'est que le plus cher, ton animal, il est tout seul. Il est pas mélangé avec toutes sortes d'affaires. Puis
il meurt seul.
Puis dans la version chipette, là, t'as toutes sortes d'animaux. Là. Tu peux avoir des souris, tu peux avoir un boa. Là, c'est ce qu'il nous a expliqué.
Mais
moi, je trouvais que c'était...
Tu payes plus cher, puis ton animal meurt seul.
Écoute, nous, on a
personne
pris la version chère parce qu'on se disait
personne
la pauvre.
Personne veut mourir seule.
Mais non, on a dit la pauvre, on veut pas qu'elle soit mélangée avec toutes sortes d'autres animaux, tu comprends?
Excuse-moi.
Oui, non, essaye d'être empathique un peu.
Mais c'est-tu la pire affaire?
C'est que moi, je pense quand même qu'à ces moments charnières où on arrive avec notre animal, nous, Betty, elle avait vraiment des problèmes depuis longtemps. Écoute, moi, j'ai fait faire de l'acupuncture à notre chien. On lui a fait faire toutes sortes de traitements. Elle a été sur des médicaments très coûteux. J'avais une assurance. Puis parce que j'ai pas toujours le temps, j'ai pas profité de mon assurance qui me coûtait quand même 80 $
par mois. Mais il faut avoir une assurance.
Il faut avoir une assurance. C'est le conseil que je donnerais aux gens. Même si, personnellement, j'en ai pas profité autant que j'aurais dû parce que faut que t'envoies les papiers. C'est quand même assez bon. Puis t'as quand même le perdième. C'est comme une assurance santé humaine. Mais c'est vraiment intelligent d'en avoir une parce que tu sais jamais quand ça va t'arriver, le bill extrêmement coûteux. Et plus l'animal, c'est comme nous finalement, plus l'animal vieillit, plus le risque...
Mais quand il est complètement, tu te dis c'est déchirant, mais ça l'est, mais quand il est complètement fini, là, très malade, tout ça, il y a un point où c'est pas... Ce qui est plus déchirant, c'est quand t'arrives, tu sais... Par exemple, des familles arrivent, l'animal est vieux, mais il sent encore opérable. Donc là, on dit, on pourrait te l'opérer, ça te coûterait, je reviens à ton chiffre, là, 10 000 $. Mais là, on s'entend qu'il vivra pas 10 ans avec ça.
Non.
C'est peut-être pour qu'il fasse
mais écoute,
un autre 6 mois, une autre année. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu payes 10 000 $ pour un chien qui va être vieux, mais qui va être
opéré? Mais il y en a. Je pense que dans le journal, en fin de semaine, on va voir qu'il y a des gens qui vont raconter toutes sortes d'histoires,
oui,
qui vont probablement nous dire qu'ils ont dépensé 5, 6, 7 000, 8 000. Ça va vite, là, tu sais. Moi, mon beau-fils, son chien s'était fait attaquer dans un parc à chiens par deux autres chiens. Je pense que ça a coûté 5 000 $ le faire opérer.
Au moins, dans ce temps-là, tu peux poursuivre.
Ouais, mais là, il l'a pas fait, là, mais tu payes. T'sais. Moi, quand Betty était sur sa fin de vie, là, on s'est dit, on va la veiller à la maison, puis si elle meurt à la maison, ce sera ça. Puis finalement, écoute, dans un élan de d'émotivité, on a décidé qu'on allait, puis j'ai appelé mon vétérinaire qui m'a dit, écoute, va donc à la clinique. Fait que je suis allée à la clinique et Betty, écoute, a eu comme un regain de... Elle adorait être dans les voitures. Elle était un peu concierge. Elle adorait regarder dehors. Fait qu'elle s'est comme redressée. Puis j'ai pensé vraiment qu'elle allait... Tu sais, qu'elle allait prendre du mieux. Et dans le stationnement de la clinique vétérinaire, elle m'a regardée. Et avec son regard... Je te dis, c'est dans mon film de fin de vie. Là, le regard de ma chienne Betty qui me dit, écoute, merci... Mais ça va être ça pour moi. C'est la fin de ma vie ici. Elle m'a regardé, Mario, avec un regard tellement, tellement émouvant, d'amour pur. Je te jure, là. Et j'ai senti son corps complètement s'abandonner à la mort. Je t'en parle, puis je suis encore vraiment très émue par la mort de mon chien. Tu sais que le deuil animalier est un deuil maintenant reconnu. Il y a des gens qui portent ce deuil-là pendant très longtemps parce que le rapport qu'on a avec nos animaux de compagnie a vraiment changé. On les appelle par leur prénom, on les aime comme nos enfants, ou presque. Attention, mes enfants. Mais là, maman, mais c'est vrai, on a un profond amour. Tu sais, je te disais que j'avais passé une heure à regarder les photos de Betty partout. Écoute, je me dis, mon Dieu, je l'étouffais, chien, là, tellement je l'ai serré. Elle a été de tous les moments de notre famille, de la grève de mon conjoint, à moi dans mes moments de migraine où je voulais mourir, à tous les moments heureux, elle a voyagé comme des humains, t'sais, elle est allée à Paris, elle est allée en Floride, tu comprends? C'est comme on devient fou avec nos animaux. Je suis pas seule au Québec, tout le monde qui écoute va dire, moi je suis comme Isabelle, tu comprends? On est toutes de même, sauf toi.
Mais... Non, mais
bref, on arrive donc à la clinique et là, moi je vois que Betty vient de mourir dans mes bras. Tu comprends que je suis en larmes, je suis là. Thierry, mon conjoint, elle apprend, la rentre, vraiment traverse les portes et tout, puis on dit, notre chien vient de mourir. Tu sais qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils nous ont dit, froidement, comme ça, voulez-vous qu'on la ranime? Et là, ça peut être comme, est-ce qu'elle peut être animée? Mais là, t'as plus de... Tu comprends? T'entends juste, est-ce qu'on peut... Elle peut peut-être vivre encore? Et là... Moi, je dis non. Mon chef dit oui. Je dis oui. Fait que là, on fait, d'accord. Combien ça coûte? 400 $ plus 200 $ pour le produit, plus 100 $ pour... Là, tu finis par faire... OK, mais il faut décider maintenant, là.
Oui, ça je
vraiment, elle dit, faut décider maintenant, madame. Ben, je dis, d'accord, OK, allons-y. Et ils ont essayé de la ranimer. Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal au cœur? C'est une erreur d'avoir fait ça. Je te le dis aujourd'hui. On le sait, c'est une erreur. Pas pour le 700-800 piastres, ça nous a coûté, mais même si c'est cher. Mais c'est surtout parce que j'ai regardé par la petite loupiote, tu sais, de la porte, il y avait une espèce de cercle avec une vitre où tu pouvais regarder. Betty avait plein d'affaires comme ça, tu sais, branchées sur elle. Ils se racontaient leur fin de semaine autour. Il était 4-5. Ça mâchait de la gomme. Ça avait hâte que ça finisse. Puis il y a personne qui la regardait. Et c'est une bonne clinique. C'est même pas une clinique désobligeante. Ou,
non, mais la question...
C'est une bonne clinique, très reconnue. Mais il n'y avait pas d'empathie. Il n'y avait pas de... Puis je me suis dit, oh mon Dieu, avoir su que c'était ça... Alors... Moi, je dirais aux gens, ranimez pas.
Non, mais la question, est-ce que c'est exagéré? Là?
Mais oui, c'est exagéré.
Elle est vieille, elle est malade, elle est morte. Là. C'est triste, là, puis ça sépare ton chien.
Mais là, t'es rationnel.
Tu...
Aujourd'hui, ben, j'en arrive à la même conclusion que toi. Mais tu comprends que sur le coup, à chaud, t'es pas en mesure de prendre cette décision. Fait que il faut y penser avant. Faut parler de ça.
Non, mais c'est parce que c'est pas froid. C'est pas incompatible être triste et rationnel. Là. Moi, je suis allé porter un chien à l'euthanasie.
Sûr,
il était rendu, il était sourd, il était rendu dangereux parce que là, il entendait plus les gens qui venaient. Il allait mordre, il boitait, il avait tous les problèmes. Il était vieux. Mais tu sais, je suis allé le porter. J'étais rationnel, c'est ce qu'il fallait faire, puis qu'est-ce que tu veux.
Ouais.
Mais c'est pas gay, là, c'est pas le fun.
Non, tu vas
tuer ton chien. Mais
là,
après
tout.
Ça, ben, on est revenu à la maison. On a deux enfants, on va regarder pour en avoir un autre. Puis c'est ça la vie. Là.
Ouais. Moi, je serais...
C'est le cycle de la vie.
C'est sûr. Mais tu vois, moi, j'aurais de la difficulté à avoir... Je ne suis pas encore capable de dire on va adopter un autre chien. Ce n'est pas un objet. Là. On a statué il n'y a pas longtemps dans une loi que les animaux étaient des êtres vivants. Mais c'est pas un humain.
On délire un petit peu. On a adopté une loi, mais je veux dire, on est proche d'adopter une loi.
Mais les animaux ont des droits, là.
Oui, mais on est proche de leur donner des droits humains, là.
Tu sais, il y a déjà un animateur qui a écrit qu'il aimait ça, lui, écraser des chats.
Pour le fun, oui.
Pour le fun. Tu te fais pas des amis. Tu sais, t'as pas le droit de battre ton chien puis de battre ton. Puis c'est tout à fait
non,
normal. Je veux dire, il y a des usines à chiots. Tu comprends? Écoute, il y a la moitié des Québécois qui ont un animal de compagnie. Je veux dire, c'est un grand remède à une solitude humaine.
Ça, 1000%. Écoute, c'est tellement. Pour des gens vivant seuls, j'y crois tellement.
La zoothérapie, c'est documenté que la zoothérapie fait du bien, tu comprends? Auprès des enfants qui sont dans le trouble du spectre de l'autisme.
Donc, alors, tout moi, ça je pour dire que les gens vont réfléchir collectivement en lisant le journal à combien on est prêt à dépenser.
Oui.
Mais peut-être des petit truc utile aussi pour
tout
dépenser
à fait.
Un
puis
peu
je pense
moins.
Qu'il faut se la poser la question avant de s'engager dans cette relation d'amour avec un animal de compagnie. Il faut
J'ai-tu
y penser.
Les moyens,
est-ce que j'ai les moyens? Puis quand va arriver les moments, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est une responsabilité. Une grande responsabilité.
Et l'assurance dans ces cas-là peut aider.
Tout
Isabelle,
merci.
Bonne fin de semaine. Pourquoi commencer à magasiner pour un nouveau chien?
C'est pas un objet, Mario Dumont. C'est pas un objet.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour, Francis.
Salut, Mario.
Ce matin, un des économistes les plus réputés au Canada qui a dit salut, bonjour, que le... que le gouvernement fédéral risquait d'empirer la situation du logement avec ses mesures.
Ben oui, es-tu d'accord avec cet économiste-là, toi, Mario?
Ben, je l'ai vu sur le site de TVA Nouvelles, mais j'ai dit, je vais demander à Francis ce soir pour me faire une idée.
Oui, c'est ça. Ben écoute, comme tu l'as vu certainement, Mme Freeland a annoncé des nouvelles mesures encore une fois hier là, pour essayer de faciliter l'accès au logement au Canada. Puis comme je l'ai donc dit à Salut Bonjour, c'était moi, là, sans grande surprise,
oui,
ce fameux économiste. Comme j'ai dit ce matin, effectivement, je trouve que ce ne sont pas des super bonnes mesures. Là. De facto, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute encore une fois de nouveaux acheteurs qui seraient un petit peu sur la limite de pouvoir se procurer une propriété. Donc, on rajoute ces acheteurs-là dans le marché. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire de la surenchère, augmenter les prix. Et finalement, ce qu'on constate, là, puis j'ai vu qu'on avait eu même des invités à Cube cette semaine, le fédéral, au lieu de s'occuper de transférer les fonds pour stimuler l'offre, pour s'assurer que les villes et les provinces génèrent et créent du logement, ils font quoi? Ben, ils rajoutent un peu d'huile sur le feu. Donc là, aujourd'hui, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défait la mesure que les conservateurs avaient mise en place. Ça, tu te rappelles, Mario, il y a déjà eu ça, des hypothèques de 30 ans, puis la raison pour laquelle on avait limité ça à 25 ans, c'était pour dire il faut qu'on enlève des gens du marché parce que ça n'a plus de maudit bon sens, les prix. C'était exact. J'ai écouté des vieux discours, là. C'était qui?
Le Jim Flaherty.
Flaherty, tu sais, quand même. Puis je trouve que sans être un grand fan des conservateurs, c'était la bonne chose à faire en matière macroéconomique. Ben là, évidemment, on fait le chemin inverse. C'est le paradoxe, hein, Mario, c'est que là, on dit vouloir servir les consommateurs.
Ben, c'est parce qu'on veut, on veut essayer de trouver une façon de faire un paiement raisonnable à des jeunes ménages. On s'entend là, qu'ils vont se surendetter, mais qu'au moins, même si tu as une hypothèque de 30 ans, tu peux habiter la maison. Là, une fois passé chez le notaire, tu rentres dedans, fait que tu as un toit. En présumant que ta situation financière va peut-être s'améliorer puis que tu vas pouvoir raccourcir la période plus tard dans ta vie, puis c'est toute ça la logique. Mais on est mal pris. La vérité de tout ça, c'est que tout le monde cherche à tâtons comment s'en sortir. Francis, moi, ce qui me frappe là, depuis quelques semaines, c'est quand tu parles à des experts, tu parles aux gens de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, puis tu parles de sortir de la crise, là. Ils te placent des années dans les années 2030. Il n'y a personne qui te parle de sortie de crise en 26, 20... on est dans ce cycle de manque de logement pour une méchante période.
Oui, exactement, Mario. Puis je pense que on va, avec des mesures comme celles qui ont été annoncées hier et plein d'autres, le CELIAP, etc., on va on accentue cette crise-là. Puis une des raisons pour laquelle, puis tu le dis bien, je pense que tu as eu Francis Cortellino de la SCHL en entrevue il y a quelques semaines.
Ouais.
Construire du logement, je dis pas que c'est simple. Tu sais, je suis pas en train de dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Puis pour faire ça, ben il faut que les constructeurs, les développeurs aient des terrains, qu'ils passent à travers les règlements de zonage, qu'ils trouvent du financement, que les mises en chantier soient faites. Donc, au mieux, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis au pire, ça prend 6 ans, 7 ans, 8 ans. Puis, tu sais, même si on repartait à la hausse l'an prochain, les mises en chantier, elles vont pas quadrupler, tu sais. Et donc, ça prend plusieurs années avec un développeur fasse un premier projet, qu'il le vende, qu'il ait l'illimité pour en lancer un deuxième. Et donc, c'est ce système-là qu'il faut relancer.
Vraiment, là. Et faut penser que là, ce dont tu parles, c'est d'arriver un jour à générer plus de logements que l'augmentation de la population. Exactement. Mais parce que, mais là, tu comprends, c'est comme, mettons, tu cumules une dette. Puis là, à un moment donné, tu réussis à équilibrer ton budget. Tu dis, OK, pour l'année 2024, dans mon budget personnel, là, je suis arrivé kiff-kiff. OK? Ouais. Donc, j'ai gagné 60 000, j'ai dépensé 60 000. Mais si t'as fait une dette les 10 années précédentes, là, tu viens de rembourser zéro. Là. T'sais, si t'as fait une année kiff-kiff, t'as arrêté de creuser, mais t'as pas remboursé. Mais c'est pareil pour le logement. L'année 2023, on a eu de l'immigration, là, nettement, mais nettement plus qu'on avait. On a généré au Québec 38 000 nouvelles mises en chantier, nouveaux logements. C'est très peu par rapport à avoir plus que 100 000 nouveaux arrivants.
Ouais.
L'année 2024, les chiffres, l'écart va être encore plus grand. En quelle année, Francis? OK, mettons qu'on réussit en 2030 à dire là, on construit assez pour le nombre de nouveaux arrivants. Mais les dizaines, les centaines de milliers d'arrérages, quand est-ce qu'on va construire du surplus de logements? Sincèrement, je ne le vois plus. Je vois plus la lumière au bout du tunnel.
Je comprends, mais ton analogie est excellente, Mario. Puis tu sais, c'est comme des budgets d'État. Au moins, si on pouvait arriver à parité, tu comprends?
Ouais, arrêtez de creuser le trou, je comprends.
Parce que là, en ce moment, le déficit, là, pour reprendre l'analogie budgétaire, fait en sorte que non seulement il y a des gens qui ne se logent pas, mais ça fait que les prix montent en flèche. Et donc, si au moins on avait autant de logements construits que de nouveaux résidents, les prix augmenterait au rythme de l'inflation, puis ça serait à la limite gérable que ça augmente de 2 % 3 %. Mais là, ce qu'on voit, encore une fois, c'est que les propriétés risquent de réaugmenter encore de...
On parle de 8-9 % cette année, ouais.
Ça n'a aucun bon sens, je veux dire, c'est déjà hors de prix. Puis je dis même par rapport à la compétitivité du Canada dans le monde, Mario, ça devient un enjeu si les Canadiens, au lieu d'investir en recherche, en entrepreneuriat, en développement de propriété intellectuelle, ils payent des bungalows, ben je veux dire, on s'en va nulle
part. Non, mais c'est
ça,
vrai.
Ça génère aucune richesse, un bungalow, là, tu sais. C'est juste une place où ce que tu fais dodo. Fait qu'à un moment donné, c'est un enjeu, je pense, plus que ouais. Juste la question du logement, mais bien de l'économie du Canada.
On parle de logement. Pour en faire, ça prend des travailleurs de la construction. Et ce matin, le journal nous apprend que l'Alberta vient de lancer un programme qui ne s'adresse pas spécifiquement au Québec, là, qui s'adresse aux 9 autres provinces du Canada, veulent recruter des travailleurs et vont donner à des travailleurs qui arrivent en Alberta un congé d'impôt, en fait un crédit d'impôt remboursable de 5 000 $.
Exactement. Donc, 5 000 $ si vous choisissez de lever les pénates là, puis déménager en Alberta ou que ce soit pour travailler dans la construction. C'est réservé à certains métiers, en particulier Mario. Là, évidemment, c'est pas n'importe qui avec un marteau là, qui peut prétendre faire ça. Et donc, si vous arrivez, vous habitez en Alberta, comme tu dis, c'est un crédit d'impôt. Et donc, il y a quand même des conditions. Il faut rester en Alberta pendant un an. Il faut faire son rapport d'impôt sur place. Il faut évidemment travailler dans ce domaine-là pendant cette période-là, un minimum d'heures. Mais essentiellement, c'est 5 000 $. Puis donc, peu importe le niveau de salaire là, selon les types de professions, il y a évidemment cet argent-là qui vous est versé, que vous ne payerez pas. Ça permet de payer le déménagement, puis l'installation, puis quelques meubles. Mais l'autre affaire qu'il faut considérer, Mario, c'est que la fiscalité albertaine est la même qu'au Québec.
Je l'ai devant moi, là, ça n'a pas de bon. Honnêtement, je dois avouer que je n'étais pas conscient. Au Québec, là, les trois paliers, mettons jusqu'à 126 000, les trois paliers, c'est 14 % 19 % 24 % là, entre 100 000 et 126 000, là, t'es rendu à 24 % En Alberta, jusqu'à 148 000, c'est 10 % Oublie le 14, 19, 24. Là. Jusqu'à 148 000, tu payes 10 % d'impôts, puis c'est tout, puis il n'y a pas de taxe de vente.
Il y a 5 % fédéral, mais quand même,
oui.
C'est par rapport aux 15 % qu'on paye ici, ça veut dire que donc ton dollar, là, une fois que tu as payé ton 10 % d'impôt, ce qui te reste pour aller payer des tomates puis ton auto...
T'as un autre 10 %
Ton billet de cinéma, tu sauves un autre 10 % sur tout ce que tu consommes, ce qui fait qu'évidemment, ton pouvoir d'achat est incommensurable. Donc,
t'es, évidemment, t'es, Mario... T'es, là, je vois derrière toi, t'es-tu en Alberta?
J'ai refait ma vie à Fort McMurray, Mario.
Ah, désolé, ok, c'est mais, ça. Je reconnaissais le décor, là.
Ouais, c'est ça. Non, pas sans blague. Je suis à Deschambault, comme tu le sais. Mais non, je pense quand même que ça va être très attractif. Puis tu sais, Mario, comme on a lancé ces fameuses attestations d'études professionnelles qu'on rémunère les gens au Québec, sans obligation de travailler dans l'industrie par ailleurs, ben, je suis persuadé qu'il y a quelques cas, là. Puis tu sais, il faudra les trouver, mais de gens qui vont venir, ils vont se former comme ferblantier au Québec, aux frais de l'État, payés pendant 4 mois par l'État québécois. Puis ils vont faire quoi en sortant de la formation? Ils vont aller prendre le Passego, collecter 5 000 $ en Alberta, puis faire leur vie là-bas. Fait que tu sais, c'est quand même un petit peu étrange, ouais. Mario. Et je trouve, dans la comparaison, l'Alberta gagne quand même avec quand même des minimums d'obligations de travailler sur place.
Hey, on a parlé longtemps, il nous reste 30 secondes pour la nouvelle sur Airbus.
Très bonne nouvelle, Mario. Tu sais, le Québec a quand même une part importante d'action dans ce projet-là. Il y avait une forme d'arrêt de travail partiel, là. Et donc là, les deux parties s'en mettent sur le point de s'entendre. Donc essentiellement, ça n'aura pas trop fait de dommages. Je t'en ai parlé plus tôt cette semaine, là. Airbus prend vraiment les devants dans la course à l'aviation aérienne. Puis le C-Series, l'A220 qu'on fabrique à Mirabel, fait partie de ça. Donc on a tout à gagner de maintenir la production.
D'éviter les grèves et les dommages qu'ils causent à une entreprise. Francis, bonne fin de semaine.
À lundi.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
Allons retrouver Emmanuel Latraverse et Mario Dumont qui sont avec nous. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Il y a Gaétan Barrette qui va se joindre à nous. Devinez quoi? Il est pris dans le trafic. Qui va se joindre à nous dans le deuxième bloc. Revenons sur cette visite très médiatisée du premier ministre français Gabriel Attal qui a passé la journée avec François Legault. Et outre la langue française, c'est beaucoup la laïcité qui les unit. Écoutons ensemble M. Legault.
On sait qu'une majorité de Québécois sont d'accord avec la loi 21. Donc, je pense que ça fait du bien de voir que les débats existent aussi en France, en Europe, et que les Québécois ne sont pas seuls.
Emmanuel, la laïcité en France, est-ce que c'est un véritable modèle pour le Québec ou c'est une laïcité trop rigide?
Est-ce que c'est un modèle? Je ne suis pas certaine que dans le contexte québécois, on peut se servir de la France comme un modèle comme tel, parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus large, beaucoup plus rigide. C'est l'interdiction du port des signes religieux, même à l'école. Puis là, je ne parle pas juste de la baïa, là, mais même le voile. On a vu une élève là, qui a fait des menaces de mort contre son proviseur parce qu'il lui a demandé d'enlever le voile dans la cour d'école. Le Québec, on n'en est pas là. Mais la France, c'est comme une validation morale en même temps, de ce désir du Québec de légiférer la laïcité, de l'imposer au-delà du fait de dire que la religion n'a pas sa place dans l'État, d'en faire des normes. Et la France était en même temps quand même le pays des droits de l'homme, une des grandes démocraties occidentales, mais ça sert de référence qui légitimise le désir du Québec d'emprunter cette voie-là et d'imposer un cadre beaucoup plus strict que celui qui prévaut ailleurs en Amérique du Nord.
Mario?
Ouais. Il faut voir que c'est, pour François Legault, sur la question de la laïcité, c'est la deuxième grande validation en quelques mois. Là, c'est un premier ministre d'un pays, Emmanuel vient de le dire, d'une grande démocratie, qui vient dire... Pas, je suis d'accord avec le mot à mot de la loi 21. Et ça, il l'a bien dit, là, c'est vos affaires, votre politique locale. Mais le principe de la laïcité, la validité du combat, l'importance du combat, sa signification dans une société de l'avenir. Mais ça s'ajoute à la cour d'appel quand même. C'est sur la loi 21, la cour d'appel est venue parler. Donc, ça veut pas dire que tout le monde va se rallier, tout le monde va être d'accord avec la loi 21. Mais ça vient complètement couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui ont crié « C'est épouvantable, pis c'est une loi de discrimination. » Tous les hauts cris, là, tu sais, que c'était une loi qui faisait de nous quasiment des nazis puis un gouvernement épeurant puis les pires sentiments du monde. Ces gens-là, aujourd'hui, ont l'air sincèrement ridicules, là, tu sais, parce que autant un chef de gouvernement d'un autre pays qu'une cour d'appel de juges nommés par le gouvernement fédéral disent « Tu peux être d'accord. » T'es jamais obligé d'être d'accord, là, c'est une politique publique. Tu peux être d'accord ou pas, on vit en démocratie. Mais... c'est fort raisonnable, c'est un combat légitime, c'est un combat valable, et tu sais, c'est un voyage qui a été payant pour François Legault, mm-hmm. Moi, je trouve que ça a été, c'est sa meilleure semaine depuis très, très, très longtemps, là.
Et pendant qu'on voit justement des images, c'est une longue journée quand même pour Monsieur Attal. Ça a commencé très tôt ce matin à 8 heures dans une école à Québec. Il est du côté de la Caisse de dépôt et de placement, toujours en compagnie notamment du premier ministre François Legault. Concernant la politique de non-ingérence, non-indifférence, est-ce que la France, par exemple, serait prête à accompagner le Québec advenant un projet de référendum? Voici ce que Monsieur Attal a répondu.
Plutôt qu'être dans le ni-ni, moi je préfère être dans le et. Et donc je suis... Et je dirais que la relation entre la France et le Québec, c'est plutôt et sensibilité et respect.
Alors, comment vous avez trouvé sa position sur le et, Mario, Emmanuel?
C'est la même chose. C'est la même chose. Essentiellement, ouais. La France ne se mêlera pas du débat constitutionnel, n'exprimera pas de préférence pour un Canada uni, pour le Québec souverain, si jamais il y avait un référendum, parce que là, on est dans le théorique, on est loin de ça. Mais c'est toujours ce que la France a dit, advenant que le Québec fasse des choix, ben la France ne sera pas indifférente, va être sensible à la réalité, va être solidaire de la nation québécoise. Il l'a dit autrement, il l'a dit en d'autres mots. Je pense que les pauvres chefs de gouvernement ou chefs d'État français savent plus comment nous le dire, là, qui se mêleront pas de nos affaires, mais qui nous aiment bien. Là-dessus, là, s'il y a un point où c'est exagéré qu'on se pose la question non, à ce point-là.
C'est un peu colonial, là. Je m'excuse, là, on est en 2024. Il n'y a pas de référendum qui nous guette dans l'immédiat. On n'est pas dans ce débat-là. Faut-il rappeler que même si Paul Saint-Pierre Plamondon est immensément populaire, il n'est pas aux portes du pouvoir à l'heure où on se parle. Et la souveraineté est à 36 %. Si un référendum, c'est dans 4 ans. Donc, faut se calmer là, un peu. Puis à un moment donné, la réalité, c'est que ce sera le mandat d'un parti québécois de gagner l'appui de la communauté internationale advenant un référendum. En ce moment, moi, je pense que le débat qui est autrement plus important pour la société québécoise, pour l'avenir du Québec, pour l'avenir de la langue de notre nation, c'est le partenariat et l'appui que le Québec peut gagner auprès d'une puissance comme la France dans tout le combat sur la place du français sur les grandes plateformes, parce que c'est là que nos jeunes développent leur culture, écoutent de la musique et tout le reste. Puis ça, dans mon esprit, c'est pas mal plus important que le i-i, néné, nounou, je sais pas quoi.
Bon. Revenons sur cette mesure qui a été annoncée hier par le gouvernement fédéral, le RAP qui va passer de 35 000 à 60 000. On a entendu toutes sortes d'arguments, ça divise même les experts. Mario, tu es économiste de formation. C'est bon ou pas? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent ben ça va stimuler la demande alors qu'il y a très peu d'offres.
C'est ça. Et de permettre les hypothèques de 30 ans sur un premier achat de maison neuve. On comprend ce que le gouvernement veut faire. Le gouvernement se dit qu'il faut que des gens, des familles ordinaires, on leur donne une certaine façon de réussir à avoir accès à la propriété, même s'ils n'ont plus vraiment les moyens, avec le prix des propriétés actuelles, puis les augmentations, on parle d'augmentation de 8-9 % encore pour cette année. Mais c'est ça. Si t'ajoutes, t'es déjà dans une surchauffe, t'es déjà dans des augmentations de prix complètement folles. Si t'ajoutes des nouveaux acheteurs, ben là, t'augmentes la compétition, il y a plus d'acheteurs, donc tu vas avoir plus de surenchères pour les mêmes propriétés, donc tu mets une pression encore plus à la hausse sur les prix. En sachant quand même que, tu sais, les gens qui vont faire, ils ont utilisé le RAP à 60 000, une hypothèque sur 30 ans, c'est qu'ils sont peut-être mal pris financièrement, dans le sens qu'ils ont peut-être juste pas les moyens d'avoir une maison. Et ça, c'est le danger. Les Américains l'ont vécu dans la crise financière. Donc, on comprend ce que le gouvernement veut faire pour permettre à des ménages de réussir à avoir accès à une propriété, mais c'est pas sans conséquence.
Bon, Emmanuel, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire pour aider les futurs propriétaires?
Mais c'est parce que il y a un gros risque qui vient avec ça. Politiquement, le gouvernement le fait pour se prémunir contre les attaques qu'il est en train d'avoir un clivage des générations absolument tragique au Canada, où il y a une génération complète qui n'a plus accès à la propriété. Le problème, cependant, il est double. C'est que le Canada est quand même un des pays où l'endettement des ménages est le plus important. Et ça, ça pose un immense problème en termes de solidité de l'économie, de marge de manœuvre pour affronter des soubresauts. Quand tu dis aux gens, savez-vous, vous pouvez emprunter 60 000 sur votre retraite à la place, puis on va vous donner encore plus de temps pour le rembourser. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu donnes du gaz à l'endettement des ménages inévitablement, là. Et ça, Je suis pas sûre que pour un pays qui a un problème où tout le capital est investi dans les maisons des gens et pas dans d'autres choses, bien sur ce front-là non plus, tu fais rien pour diversifier l'économie canadienne.
Restez avec nous. Dans un instant, la vérificatrice générale qui ouvre une enquête sur le fiasco du virage numérique à la SAC. À tout de suite.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Alexandre, tu nous parles d'un incident qui a forcé un avion à atterrir d'urgence, pardon, aux États-Unis.
Ouais, tu sais que c'est dans mes histoires préférées quand ça implique là un réquisitionnement en plein vol, un détournement d'avion et en plus qu'on peut jumeler des animaux, Mario, mais c'est encore mieux. Puis justement, cette fois-ci, ben on parle des deux.
C'est quoi, un perroquet a eu un malaise à bord?
Pas un perroquet, Mario. Un avion qui part de Houston au Texas doit se rendre jusqu'à Seattle. Et là, fait à peine une heure qu'ils sont décollés là, le 7 avril dernier, donc vendredi il y a une semaine. Et là, à l'intérieur de l'avion, ça m'a senti drôle. Vraiment bizarre. Et là, on se rend compte qu'en avant, ben, en première classe, quelqu'un a amené son chien à l'intérieur de l'habitacle. Et là, il avait le droit. On a le droit au chien de support. On a le droit à des petits chiens aussi dans la cabine. Mais là, c'est parce que le chien a fait ses besoins, Mario. Juste devant la toilette, sur la moquette de l'avion. Tu sais, le beau tapis des avions, là. C'est bien pratique quand tu vas te promener en pied ouais, de bas dans l'avion, mais...
Mais ça, c'est pas... Tu t'atterris pas un avion pour ça, là. Veux dire, tu ramasses, tu...
C'est parce qu'ils ont détourné l'avion. Semble-t-il qu'après avoir tenté de nettoyer le besoin en question, que l'odeur, comme c'est en première classe, c'est en avant de l'avion, que l'odeur était tellement insupportable que tout le staff, là, les employés de l'avion, les agents de bord, les pilotes...
C'est impossible qu'il n'y ait pas un produit nettoyant. Tu remets un tapis sur le tapis, tu remets quelque chose par-dessus.
Ben, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, hey, on n'est pas à... Ben,
moi, si j'étais pressé d'arriver à Seattle... Là. Puis pour de la merde de chien, il me faisait atterrir puis perdre de retard. Puis qu'il y a un hôtel qui m'attend ou des billets de spectacle ou des billets pour aller au football, j'aurais capoté, là.
Ben, il y a du monde qui ont dû capoter, Mario, parce qu'on est allé se poser à Dallas après moins d'une heure de vol. Et là, ça a pris 2 heures de temps pendant lesquelles on a récuré le tapis, on a tout tenté pour essayer d'enlever tout ça en disant que c'était un risque biologique, Mario, ni plus ni moins.
Non, mais le propriétaire du chien, là, ils vont un recours devant les tribunaux.
L'histoire ne le dit pas pour l'instant, hey, mais là, 2 heures de temps.
Mais-y une couche.
Puis là, après ça, on est reparti et selon des témoignages qui ont été livrés à l'intérieur de l'avion par d'autres passagers, en plus, ben, l'odeur n'a jamais véritablement disparu. Il y avait encore des petites drafts, comme on dit en bon québécois, quand les gens se promenaient. Et là, ben, c'est, on se comprend, ben, un désagrément.
C'est de désagrément. Merci, Alexandre.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
Alors, nous accueillons donc Gaétan Barrette qui est finalement sorti du trafic. Le trafic, ça commence plus tard, plus tôt en fait, le vendredi, Gaétan.
Je ne peux pas battre une rue nouvellement fermée avec beaucoup de policiers autour.
Bon, effectivement. Alors, bienvenue parmi nous, la vérificatrice générale qui va enquêter sur le déploiement de sa clique. Gaétan, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu espères savoir à la lumière de cette enquête?
Bien, regarde, moi, là, selon bien des rumeurs que j'ai entendues, bien des vérifications que j'ai faites, il y aurait eu un problème informatique lorsqu'on a joint certains concepts de code entre le ministère des Récair et le ministère des Transports. Alors, ce que moi, j'attends, là, c'est de voir où a été l'espèce de bug, le virus, la mauvaise ligne de code, lorsqu'on a joint deux entités qui n'avait pas apparemment été conçu et coordonné. J'ai hâte de voir ça. Sais-tu pourquoi? Parce que là, on est à l'aube de la transformation numérique du gouvernement où, en informatique, on va vouloir mettre en commun certaines données ou du moins pouvoir faire certains croisements. Là, je n'entre pas dans la gestion ou le côté privé des données, mais simplement du côté de l'analyse. C'est une bonne chose pour moi que la vérificatrice générale fasse ça pour qu'elle puisse identifier dans la procédure quels tests probablement n'ont pas été faits et qui ont mené à cette catastrophe et fonctionnelle et financière-là.
Mario, tu t'attends à quoi?
Ben, on veut savoir certainement là, qu'est-ce qui a causé le fiasco informatique, aussi pour en retenir des leçons pour l'avenir. On veut savoir, oui, on veut savoir oui. où est allé notre argent. Tout ça a coûté très cher. Et il y a un petit plus, et je le dis aux gens, moi-même j'ai découvert ça aujourd'hui, il y a maintenant, si vous allez sur le site internet de la vérificatrice générale, un onglet qui permet au public, ça s'appelle « Participer à un audit ». Et donc, écoute, séance de défoulement, là, si ça vous intéresse, là, vous pouvez participer. Vous... Et donc, là, vous allez écrire ce qui vous est arrivé. Vous avez attendu, ils vous ont fait venir trois fois, ils vous ont envoyé une lettre qui était tout mêlée. Vous décrivez ça, vous pouvez même joindre des pièces. Vous avez une photo de file d'attente, vous avez des documents qui prouvent leur incompétence, leurs erreurs, le temps qu'ils vous ont fait perdre, ils ont gâché votre vie. La vérificatrice veut savoir ce que le public a vécu. Et je trouve que c'est un apport. Tu sais, on regarde souvent la vérificatrice vue du haut, où sont allés les budgets. Mais là, on va aussi avoir la vue d'en bas, là, le peuple, les gens, ils ont vécu quoi, eux, comme désagrément, là?
Mais sais-tu quoi, Julie? En plus, c'est utile, parce que quand on cherche un bug, il y a une procédure à suivre, et une des procédures, c'est « provoquons le problème ». Alors, les gens, en allant s'épancher sur le site de la vérificatrice générale, ça va aussi leur permettre de tenter de reproduire ce qui causait le bug, là, la confusion, la non-efficacité, le mur informatique, et ça va les aider. Et manifestement, ils vont avoir besoin d'aide pour les prochaines transformations, notamment en santé. Il paraît qu'il y a une grosse transformation qui s'en vient là.
Mais c'est le problème aussi, là, c'est qu'à un moment donné, on a beau être en retard, là, on ne peut pas les arrêter, ces transformations numériques. Si une sur laquelle on travaillait depuis aussi longtemps aura fini par coûter un demi-milliard de dollars. Oui. Hein, je veux dire, je comprends là, qu'on a perdu le sens de la valeur de l'argent depuis la COVID, là, mais c'est monumental et a accouché d'un fiasco sans nom. Mais peut-être qu'il faut comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas dans les mécanismes du gouvernement pour espérer, Dieu nous en préserve, qu'on ne répète pas les mêmes erreurs dans les prochaines transformations.
Amen.
En fin de semaine, c'est le conseil, ça commence d'ailleurs ce soir, Conseil national du Parti québécois à Drummondville, et un des quatre députés, Pascal Paradis, en a profité pour partager l'œuvre d'un des admirateurs qui lui a envoyé ceci. Alors, ce sont les quatre députés qui personnifient chacun un Beatles. Alors, donc, en rose, c'est Ringo. Alors, Pascal est devenu Ringo. En jaune, Joël Arsenault et John. Paul Saint-Pierre Plamondon, Paul McCartney et Pascal Bérubé, George Harrison. Comment vous trouvez ça?
Bien, écoute, l'art d'occuper l'espace public, il faut donner ça au Parti québécois.
Oui.
Après le serment au roi, les Beatles. Alors là, il n'en reste pas moins que c'est quand même une admiration de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a un message subliminal ici, là?
Elle est bonne, celle-là. Ouais. Mario, comment tu trouves ça?
Mais, en tout cas, le Parti québécois veut s'accrocher à tout ce qui a du succès de ce temps-ci, les Beatles, ça marche, pourvu que ce soit pas yesterday, là.
Mais moi, je trouve que c'est l'image, moi, ma préférée, là, c'est l'image, c'est notre collègue Claudie Côté qui est au Conseil national, la dernière page du cahier de proposition. Regardez bien, c'est sur l'habitation. Mesdames et messieurs, voici la PS Pépine.
La PS Pépine, c'est bon.
Alors, on va voir Paul Saint-Pierre Plamondon au volant d'une pépine pour nous sortir du trou de la crise de l'habitation, mesdames et messieurs.
Et c'est malheureux qu'il n'y ait pas une députée féminine parce qu'ils auraient pu se mettre en corbeau avec on sait qui.
Gaétan Barrette, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont. Merci à vous trois. Bonne fin de semaine. Au revoir.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
Vous connaissez peut-être déjà notre prochaine invitée, si vous êtes un adepte des recettes barbecue qui sont dans le journal, Philippe Lapointe, expert du barbecue, mais qu'on reçoit comme auteur du livre « Jouer avec le feu autour du monde ». Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour.
Livre que j'ai regardé parce que on a le barbecue traditionnel au propane bien simple, mais la planète au complet cuit de toutes sortes de manières sur des grills avec toutes sortes de formes de feu, de combustion, cuit des viandes et des légumes.
Exactement. Même ici, on commence à voir le changement dans la coutume du barbecue. On délaisse le propane un petit peu et puis on s'en va plus vers les modes traditionnels.
On revient au charbon de bois.
Le charbon de bois gagne en popularité des dernières années, les 4-5 dernières années.
D'ailleurs, l'offre dans les grandes surfaces de toutes sortes de briquettes et tout ça, l'offre s'est élargie beaucoup. Là.
Exactement. Puis on a même les barbecues granules aussi qui remontent en popularité. Donc les gens
se tournent. Les fumoirs.
Fumoirs aussi. Les gens se tournent et délaissent un petit peu le propane pour aller dans des modes alternatifs un petit peu de.
Mais est-ce que l'expert recommande
Ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins, ça dépend du budget, ça dépend d'un paquet de facteurs. Moi, personnellement, c'est sûr que le charbon va toujours rester un de mes favoris. Les fumoirs aussi, les fumoirs au bois avec les bûches conventionnelles. On fait un feu, ça transmet dans la chambre de combustion. Puis à ce moment-là, on profite de toutes les bonnes saveurs et odeurs du barbecue.
Donc là-dedans, on a toutes sortes de recettes, mais on a des recettes qui ont fait le tour du monde, là, en fait. On a des recettes qui s'inspirent de toutes sortes de façons d'utiliser cette chaleur sur le grill.
Exactement. Je voulais montrer aux gens que c'est possible de voyager tout en restant ici, simplement avec des recettes différentes à travers le monde, les classiques tels qu'on les connaît de différents pays, mais aussi aller dans des petits coins qu'on connaît un peu moins, puis de voir que c'est simplement souvent un mélange d'épices qui va faire en sorte que les saveurs vont s'en aller complètement dans un autre registre.
Ouais. Les méthodes de cuisson les plus originales qu'on retrouve là-dedans, là...
Écoute, le classique, un feu, une grille, la base, c'est ce qui est, à mon avis, c'est ce qui est le meilleur. On va aller retrouver le goût de l'aliment, là, on va aller chercher vraiment les saveurs approfondies de l'aliment avec un aliment de bonne qualité, ça va de soi. Là.
Ça, c'est dans, je ne me trompe pas, quasiment la première, au début, là, une des premières recommandations, c'est la qualité de l'ingrédient.
Toujours, peu importe l'équipement qu'on va avoir, peu importe qu'on ait un barbecue qui coûte une fortune, ça ne change rien. Pour avoir une bonne recette, un bon produit final...
Pour avoir une bonne viande, un bon poisson.
Exactement.
On trouve ça où? Ben, en fait, il n'y a pas une seule place, mais on fait quel genre de démarche ou on évite quel genre d'erreur si on veut avoir du bon produit?
On est chanceux ici au Québec d'avoir d'excellents producteurs locaux, autant maraîchers que bovins, peu importe. On a des bons producteurs au Québec. Il faut mettre de l'avant les produits du Québec. On fait des produits de qualité ici, donc en boucherie, directement chez le producteur. L'été, faites le tour des marchés publics, allez rencontrer les producteurs, allez acheter les produits frais, locaux. Avec ça, c'est assuré qu'on va avoir une bonne recette puis un bon produit final.
Promenons-nous un peu dans le livre et dans le monde. On va au Maroc, en Afrique du Nord, on va en Asie. On
fait le tour.
On fait le tour, vraiment. Avec des produits qu'on retrouve sur nos... Parce que vraiment, nos supermarchés sont pas mal équipés maintenant d'une variété de produits à l'échelle internationale. On retrouve de tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans, on le retrouve facilement.
De plus en plus, on a des épiceries spécialisées ici. J'ai voulu mettre la recette classique, originale, telle qu'elle est dans le pays d'origine, mais aussi comment l'adapter avec les produits qu'on a ici. Donc, il y a des notes en bas de recette. Si vous ne trouvez pas tel ou tel produit, voici par quoi on peut le changer pour avoir le même goût, le même produit final, sans négliger les ingrédients.
T'as préféré?
Ah, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes.
On en a deux minutes. Une coupe de préféré d'abord. Là.
Le bœuf bulgogi de Corée. Dans sa simplicité.
Ça, c'est avec les petits bouts de côte, là, c'est ça?
Non, ça, c'est les bouts de côte coréens.
OK, je me suis mêlé. Parce que moi, les bouts de côte coréens, je capote là-dessus.
Ça, c'est très bon.
Mais l'autre bœuf, c'est quoi, le coréen?
C'est une pièce de bœuf. On va prendre l'intérieur de ronde ou une noix de ronde qu'on va trancher mince à cru. On va faire mariner dans un mélange de mirin, soya, poire asiatique. Si on ne trouve pas de poire asiatique, on peut le remplacer par une pomme, tout simplement. On laisse mariner ça. Et puis, ça donne les saveurs qui s'imprègnent dans la fine tranche de bœuf. On fait simplement griller au-dessus du feu quelques minutes, une, deux minutes, juste pour dire que c'est
la poire asiatique, c'est celle qui nous emballe des fois dans une espèce
qui a l'air beaucoup trop fragile, oui.
OK, c'est ça.
Mais qui l'est pas.
Ça se trouve. Fait que c'est un classique.
C'est un coup de cœur. Juste pour les saveurs qui s'en dégagent, on va goûter le bœuf, on va goûter la marinade. C'est très simple à faire. Ça prend quelques minutes à faire la marinade. On laisse mariner le temps qu'on veut. Puis laisser
un 4 heures. Il faut avoir une belle pièce de bœuf.
Toujours.
L'ingrédient.
Toujours, toujours, toujours.
Ouais.
Mais le bœuf bulgogi, c'est un de mes
préférés. Un des coups de cœur.
Ouais.
Ben, c'est disponible à l'heure où on se parle.
Oui, c'est sorti mercredi de cette semaine, le 10. C'est disponible en librairie, les grandes surfaces. Et puis,
jouer avec le feu autour du monde. Exactement. Et c'est pas parce qu'il y a un livre qu'on n'aura pas les chroniques dans le journal Barbecue, ça continue cet été.
Exactement. À partir du 20 avril, mes chroniques hebdomadaires dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, Cahiers Est, à chaque semaine.
Philippe Lapointe, merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure.
Bonjour Jean-François.
Salut Mario.
Alors, petit mot sur la partie d'hier. Patrick Roy qui a gagné.
Oui, puis le Canadien, honnêtement, si ça n'avait pas été de Samuel Montembeau, puis un peu de chance, parce que les Islanders ont frappé quelques poteaux, on n'aurait même pas été dans le coup, on n'a pas atteint les 20 tirs, les Islanders ont beaucoup mieux joué.
Je pense qu'on n'est pas proche des 20 tirs, c'est-tu 15?
15 ou 14.
Ouais, c'est pas beaucoup de tirs, ça.
Ah non, non, on n'était pas là du tout. Mon beau-père était à la maison, on a regardé ça ensemble hier, il m'a dit de quoi, de temps en temps, on cognait des clous un peu, fait qu'on a mis ça à Pingouin contre Red Wings.
Oh, ça n'a pas été plate, hein?
C'était bien meilleur, il s'est compté 11 buts, une remontée des Red Wings, victoire en prolongation des Pingouins, record
sur
pour
une récupération
Crosby.
De rondelle et une passe de Sidney Crosby, sa millième en carrière.
Exactement, à la Crosby en plus, là, en gagnant sa bataille. C'était bien meilleur que le match canadien, même si on aime bien les glorieux, là, mais hier, il n'était pas tellement glorieux.
Sur la millième passe de Sidney Crosby, je dois avouer que je me suis amusé énormément de Georges Larac aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelqu'un, en fait, je pense que c'est la Ligue nationale, à qui Crosby a fait toutes ses passes. Le premier, c'est Malkin, je pense que c'est 138 buts de Malkin, puis tout ça. Mais Georges Larac, Mario Lemieux, donc il y a un but de Mario Lemieux qui a eu une passe de Sidney Crosby parce qu'ils se sont croisés pas longtemps en fin de carrière, en début de carrière. Et Georges Larac dit, voici une statistique où je suis l'égal de Mario Lemieux.
Mais il y en a une couple, André Roy en a une. J'ai bien ri quand j'ai vu Mike Streit qui en a une aussi. Mais oui, c'est sorti, donc qui a contribué dans le fond aux 1000 passes sur les buts de qui?
Qui a marqué, là,
évidemment,
c'est
ça. Le top 5, là, c'est Malkin, Genzel, Kunitz, Le Temps. Et Brandon Rust, c'est pas mal eux autres. Mais sinon, c'est fou à quel point il a joué avec de nombreux joueurs. Puis il y a Mike Recchi dans la liste, là, dans le top 20. Ça veut dire que, tu sais, Sidney, ça fait longtemps qu'il est là. S'il a joué avec Mark Recchi puis qu'il joue aujourd'hui encore, ça fait un méchant bout.
Le Canadien a signé aujourd'hui un joueur. Il semble que c'était prévisible.
Oui, bien, en fait, on attendait l'élimination de son équipe. C'est une déception, d'ailleurs. Les Terriers de Boston, on pensait qu'ils allaient se rendre plus loin que ça. Donc, ils sont déjà éliminés, ce qui ouvre la porte à Lane Hutson. Lane Hutson, là, même si vous n'êtes pas des amateurs de hockey, vous avez sûrement entendu parler de lui. On parle de lui depuis plusieurs années. Souvenez-vous, au repêchage, il avait fait le tour des équipes en disant « Mon médecin dit que je vais encore grandir ». Il avait été passé des radiographies pour prouver qu'il était en retard dans sa croissance, puis c'était tout un joueur de hockey, mais ce qui ralentissait tout le monde, c'était son petit gabarit. Comme de fait, il a grandi. Le Canadien a pris une chance dessus. Il est encore petit. C'est pas un format géant, loin de là.
Non, mais c'est un patineur, puis c'est un manieur de rondelle, c'est incroyable. J'ai regardé plein de séquences de lui. C'est un magicien sur glace.
Oui, et là, il s'amène avec le Canadien vu que son équipe est éliminée.
Est-ce qu'il va jouer?
Il est super heureux. Il va jouer un match garanti, c'est ce que j'ai lu. Il va s'amener, il sera pas là pour contre Ottawa samedi, mais il va être là pour un des deux matchs contre Détroit et peut-être les deux.
Et il semble que c'est son coin de pays. Il vient des États-Unis, pas loin du Michigan, donc il va être pas loin de chez eux à Détroit. Ça pourrait être une occasion de le faire jouer là.
Exactement.
Sa famille peut s'aller. Ben...
Va-t-il être capable de faire ça? Ça, c'est une autre chose. Parce que si vous l'avez vu au championnat du monde, vous avez vu des séquences dans les bulletins de sport, c'est un gars qui contrôle beaucoup la rondelle. Il s'amuse quasiment avec les gars contre qui il joue. Là. Il fait des feintes pour un défenseur, puis tous les joueurs mordent à ces feintes, c'est incroyable. Mais arrivé dans la Ligue nationale de hockey...
Oui, il y a des meilleurs défenseurs, là, hein?
C'est une autre paire de... Oui, puis tu fais la même petite feinte à la ligne bleue, tu te fais prendre par un bon ailier qui s'en va en échapper, par Nathan MacKinnon qui s'en va en échapper, t'as l'air un peu plus fou, là. Fait que, puis l'autre affaire, c'est qu'il faut qu'il défende aussi, parce que c'est bien beau attaquer, parce que c'est un défenseur offensif, là, comme on le compare à un Cale Makar, par exemple, mais il va devoir aussi apprendre à défendre dans sa zone. Mais tout ce que je peux vous dire, pour vous donner un aperçu, là, il a battu le record dans les rangs universitaires de Brian Leetch. Et on connaît la carrière qu'a eu Brian Leetch. Fait que c'est une belle prise pour le Canadien. On verra bien ce qu'il va être capable de donner. La bonne nouvelle, c'est qu'il a choisi de s'en venir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, l'année prochaine avec le Canadien ou probablement avec le Rocket de Laval.
C'est quoi l'histoire des... Parce qu'on sait que les Coyotes ont des difficultés d'immobilier, de se trouver un aréna qui a de l'allure, un amphithéâtre qui a de l'allure, mais ils ont eu d'autres problèmes financiers.
Mais là, c'est Frank Saravalli, encore une fois, qui a sorti ça aujourd'hui. Pourquoi cette année? J'avais déjà entendu parler de ça, mais là, lui, le confirme. Ils ont eu des retards de paiement pour les hôtels. Fait que, tu sais, mettons, ils s'en vont jouer à Dallas, évidemment. Les autres, ils en louent des chambres. J'imagine que l'édifice de Dallas se casse pas trop la tête. Là. Bon, ils n'ont pas payé. Ils vont nous payer. Là. C'est les Coyotes de l'Arizona, comme toutes les autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Mais ils ont eu des retards de paiement sur plusieurs hôtels comme ça pendant la saison. Moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils n'en ont pas de problème d'argent. C'est juste que le propriétaire s'amuse présentement à donner juste assez...
À faire suer tout le monde.
À faire monter les enchères pour son équipe, parce que là, on parle de 1,2 milliard, peut-être, finalement, la vente des Coyotes. Je pense qu'ils s'amusent avec tout le monde présentement.
au golf, le tournoi des maîtres. Là, il y a Tiger Woods aujourd'hui qui avait plus que 18 trous à jouer, hein?
Oui, parce qu'il en a joué 13 hier à cause de la pluie, donc ça a été une bonne journée. Là. Il a joué son 5 plus un 18. On connaît sa condition médicale, là. On sait à quel point il est magané, fait que ça a été quand même une difficile journée pour Tiger, mais il s'en est bien tiré. C'est sûr que lui doit être déçu, il est à plus 1. Tiger nous a habitués, évidemment, à
des meilleurs rondes que ça. Mais là, ça, il fait la coupe avec ça, plus 1. Là. Il joue en fin de semaine.
Là, il reste des golfeurs à terminer, là, mais logiquement, c'est pas un enjeu. Présentement, la coupe est à plus 4. Il est à plus 1. Donc, il devrait faire la coupe et jouer en fin de semaine, ce qui est un exploit. Là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et les meneurs, présentement, Scheffler vient de prendre la tête à moins 7. DeChambeau est à moins 6. Fait que, tu sais, Tiger est à, quand tu y penses, il est à 7-8 coups des top mondiales qui s'entraînent à l'année, qui jouent à l'année. C'est phénoménal.
Un gars qui avait presque arrêté de faire des tournois depuis qu'il y a eu des problèmes de santé importants. Et les demi-finales commencent ce soir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je te souhaite une excellente fin de semaine.
Toi aussi, Mario.
Merci. Merci à vous d'avoir été là. Une excellente fin de semaine. À vous également. On se retrouve lundi.